Europe 1,
18h-20h,
le grand journal du soir.
Wendy Bouchard.
Bonsoir Marlène, bonsoir à tous.
Bonsoir Wendy.
Bienvenue dans votre grand journal du soir sur Europe 1. Un samedi de colère avec Paris au cœur de la contestation entre climat, black blocs, gilets jaunes, principale information de la journée. On y revient avec nos reporters sur place et notre invité, commandant de police Christophe Rouget, qui va commenter cette situation. 18h40, on refait l'actu. Emmanuel Macron a-t-il raison de vouloir regarder en face le sujet de l'immigration? Deux députés nous répondent. 18h50, son père agriculteur s'est suicidé, acculé par les dettes. Édouard Bergeon en a fait un film bouleversant, Au nom de la terre, au cinéma mercredi. Il nous rejoindra en studio. À suivre également, une chanson dans la tête sur Europe 1. Soprano, le rappeur, ce soir en concert à Nanterre, 40 000 places. Le 12 octobre, il sera à Marseille. Il vient d'entrer au musée Grévin. Ce chanteur, Fabien Lecoeuvre, nous raconte son histoire. Toute l'actu des sports à suivre. Voici pour les grands rendez-vous de ce journal avant l'œil de Frédéric Dabi, 19h40, qui reviendra sur le climat social du moment. Merci de votre fidélité. Voici d'abord le journal de 18h sur Europe 1. Bonsoir Fabien Lemoyle.
Bonsoir Wendy, bonsoir à tous.
Il est 18h.
On est obligé de faire demi-tour, c'est quand même du jamais vu et c'est désolant pour cet enjeu climatique essentiel.
Les marcheurs pour le climat obligés de rebrousser chemin à cause des black blocs qui ont infiltré leur cortège des gaz lacrymogènes des forces de l'ordre. Voilà pour les principaux incidents qui ont marqué ce samedi à Aurisque avec 7500 gendarmes et policiers déployés dans les rues de Paris. Au dernier pointage, 152 personnes interpellées, 90 placées en garde à vue. Manifestation beaucoup plus calme pour les retraites.
En sport, une belle entrée en matière du 15 de France au Mondial de rugby au Japon. Victoire 23-21. Mais attention à ne pas croire que tout est gagné pour passer le stade des poules.
Je pense qu'on est dans une bonne dynamique. J'espère que ça va continuer. Il ne faut surtout pas qu'on se relâche, les gravir marche après marche.
Et puis jour de grand nettoyage pour la planète, comme sur la plage de la Croisette à Cannes.
Parce que sinon, les poissons mangent et ils vont s'étouffer.
On est ensemble jusqu'à 20h. Bienvenue sur Europe 1.
Europe 1.
Emmanuel Macron, Fabienne Lemoyle avait lancé un appel au calme hier soir. Les autorités considéraient en effet ce samedi comme une journée à risque entre l'acte 45 des Gilets jaunes, vous l'avez rappelé, la marche pour le climat et le cortège de forces ouvrières contre la réforme des retraites.
Résultat paricadrillé par les forces de l'ordre et des incidents finalement cet après-midi dans le cortège de la marche pour le climat. Un millier de black blocs qui ont infiltré le cortège selon la préfecture de police et les forces de l'ordre qui ont utilisé des gaz lacrymogènes pour les disperser. Et Victor Delande, vous avez suivi le cortège pour Europe 1. C'est au début de la marche que les incidents ont éclaté.
Oui, à peine 30 minutes après le début de la marche, la situation s'est brusquement tendue. En tête du cortège, des échauffourées ont éclaté entre les forces de l'ordre et des black blocs, ces manifestants habillés en noir de la tête aux pieds. Ces derniers ont mis le feu à plusieurs scooters garés sur le boulevard Saint-Michel, brisé des vitres de magasins, des abribus et des kiosques à journaux. Les CRS ont répliqué par des tirs nourris de gaz lacrymogène et de grenades de deux encerclements. Mouvement de panique dans la foule, marche arrière et incompréhension au sein des manifestants. Ouria était en tête de cortège, elle pointe la responsabilité des forces de l'ordre.
C'est un sentiment de gâchis, bien sûr, parce qu'on vient en musique, on vient faire la fête et en même temps interpeller nos décideurs pour qu'il y ait une autre résonance au climat et qu'on prenne soin de notre planète et accessoirement de l'être humain, on va dire. Et en fait, là, ils nous montrent clairement que, un, ils n'en ont rien à foutre des êtres humains. Nous, vous voyez, moi, je suis absolument ni armée ni casquée, j'ai été gazée. Donc on ne peut pas dire qu'il y a eu de la provocation de la part des manifestants.
Pour Patrice, au contraire, c'est uniquement de la faute des Black Blocs si la situation s'est envenimée.
C'est eux qui arrivent à imposer leur timing. Et c'est y a les affrontements. Et là, vous voyez, on est obligé de faire demi-tour. C'est quand même du jamais vu. Et c'est désolant pour cet enjeu climatique essentiel.
Depuis plus d'une heure maintenant, en tête de cortège, la situation est redevenue beaucoup plus calme. Chant pour le climat, danse et animation remplacées les images de violence. Plusieurs jeunes enfants de 4 à 8 ans ont assuré l'ambiance tout devant. On n'a pas de temps à perdre avec les gens violents, m'a glissé l'un d'entre eux. Nous, on doit continuer à marcher et à manifester pour préserver notre planète.
Et Victor Delande dans la marche pour le climat à Paris pour Europe.
En tout cas, après ces incidents, l'ONG Greenpeace a réagi immédiatement dans un tweet en annonçant leur position. Ne prenez aucun risque, quittez la marche pour le climat. Décision justifiée par Jean-François Julliard, directeur de Greenpeace France, au micro de Théo Manval.
Bah, c'est un vrai sentiment de gâchis, on n'avait absolument pas besoin de ça, on avait besoin d'une manifestation familiale, non violente, pacifique, avec du monde. Moi j'étais en tête de cortège, c'est devenu violent très très rapidement. Des manifestants cagoules noires qui ont dépassé le cortège et qui sont venus s'affronter avec les policiers devant le cortège. C'est à ce moment-là qu'il y a eu une réaction disproportionnée de la part de la police, dans le sens où on a vu des grenades lacrymogènes arriver là au milieu des manifestants qui étaient tout à fait pacifiques et non violents. Des salariés ou des militants de Greenpeace qui étaient avec leurs enfants, donc c'est sûr que dans ces conditions-là, c'est pas possible. Et c'est, voilà, c'est très décevant, c'est assez triste. Ça nous met un peu en colère aussi que ça se passe comme ça. Il va falloir réfléchir maintenant tout de suite à la suite de la mobilisation et trouver d'autres moyens pour faire en sorte que cette mobilisation se poursuive, parce qu'on a besoin qu'elle se poursuive.
Jean-François Julliard, le directeur de Greenpeace France. La marche pour le climat qui a rassemblé 15 200 personnes selon le décompte du cabinet Occurrence, décompte fait pour un groupe de médias dont Europe 1. Alors on le disait, Paris avait été placé sous haute surveillance avec un déploiement imposant de forces de l'ordre et beaucoup de contrôles préventifs. Résultat, Chloé Triomphe, où en est-on au niveau interpellation ce soir ?
Eh bien, le dernier bilan fourni par la préfecture de police donne 152 interpellations, 302 verbalisations et 90 gardes à vue selon le parquet de Paris. Des chiffres finalement assez bas comparés à ceux qu'on a pu voir certains samedis ultra violents du mois de décembre dernier. Alors qu'est-ce que cela dit ? Eh bien, cela montre surtout que ce n'était pas l'objectif principal des forces de l'ordre aujourd'hui, qui avaient essentiellement pour consigne de disperser les attroupements violents dès qu'ils se forment. Ça a été le cas par exemple ce matin avant 10h vers Madeleine, puis une heure plus tard sur les Champs-Élysées. Puis c'était le rôle des braves, ces brigades de répression des actions violentes cet après-midi dans les manifestations. Cela correspond effectivement à ce qu'avait annoncé le préfet de police hier, avec ce dispositif non seulement du nombre, 7500 policiers et gendarmes dans les rues de Paris, mais surtout de la mobilité avec ce dispositif notamment de 180 motos capables de transporter 6 compagnies. Alors vous avez vu qu'un millier environ de Black Bloc et individus violents ont infiltré le cortège des manifestations. Il y a eu des dégradations, des violences, mais à ce stade, rien de comparable avec le pic de violence de l'an dernier.
Chloé Triomphe du service police-justice européen. Et à noter que parmi les 152 personnes interpellées, il y a un policier qui n'était pas en service et qui est en garde à vue ce soir pour outrage et rébellion envers les forces de l'ordre.
Sur cette consigne et cette stratégie du maintien de l'ordre, dans 10 petites minutes, je ferai réagir Christophe Rouget, commandant de police et secrétaire général adjoint du syndicat des cadres et de la sécurité intérieure sur Europe 1. Ambiance nettement plus calme, Fabienne Lemoyle, pour le rassemblement à l'appel de forces ouvrières contre la réforme des retraites.
Plusieurs milliers de personnes, en effet, Wendy, pour un cortège parti de Duroc qui a pris la direction de la place d'Enfer Rochereau, avec des pancartes où l'on pouvait lire « Retraite universelle de Macron, c'est non » ou encore « Non au travail sans fin » et des manifestants, vous allez l'entendre, déterminés.
Nous sommes là tout simplement pour défendre notre régime spécifique de retraite. Et également pour lutter contre la retraite par points, qui pour nous est un travail sans fin. Surtout pour les générations à venir.
On a un mouvement en marche. Pour lui, un euro cotisé doit être un euro le même pour tout le monde. Or, s'il est marcheur, il sait bien qu'un kilomètre à pied sur du plat, un kilomètre à pied sur de la pente ou un kilomètre sur la montée, c'est un kilomètre, mais ce n'est pas la même pénibilité.
Nos acquis, on va en perdre beaucoup. La retraite de mes petits-enfants, ça va être une petite pension, travailler plus pour gagner moins.
Je pense que là, on arrive sur un point de non-retour. Et donc, on va s'orienter vers ce qu'on appelle la convergence des luttes pour éradiquer ce gouvernement néfaste.
Des témoignages recueillis par Élise Dangean dans le cortège de forces ouvrières. Notez que 5 syndicats de la RATP ont annoncé une grève illimitée à partir du 5 décembre contre la réforme des retraites. Pour l'instant, la CGT ne s'y est pas associée.
Il est 18h07, la suite du journal sur Europe 1, Wendy Bouchard.
Et en rugby, ils nous auront fait peur jusqu'au bout. Le 15 français s'est finalement imposé 23-21 face à l'Argentine ce matin pour son premier match de la Coupe du Monde au Japon.
Il faut dire que les Bleus jouaient gros, leur groupe de qualification est particulièrement relevé, 2 places à prendre et l'Angleterre grand favori, d'où ce match capital face aux Pumas qui font figure de principal adversaire des Bleus pour passer le stade des poules. Simon Rubin, l'envoyé spécial d'Europe 1, a suivi cette rencontre pleine de rebondissements.
Il reste moins d'une minute. Le stade est sous tension. Pénalité pour l'Argentine. Si elle passe, la France a perdu. Dans la tête des joueurs bleus, la peur. Camille Lopez.
Tu te dis merde parce qu'il reste, 40 secondes. Si ça passe, c'est mort. Tu te dis que tu t'es fait chier à bosser dur, à faire le match que tu as fait pour au final ressortir vaincu. Mais voilà, cette fois-ci, ça nous a souri. Et j'espère que ça sera le déclic pour quelque chose de bien.
Malgré une seconde mi-temps catastrophique, les Bleus s'imposent donc. Après des années de défaite et de frustration, les joueurs exultent. Preuve que notre travail paye enfin, résume Camiche.
Je pense qu'il y a quelques temps, on aurait perdu ce match. Et il y a quelques temps, on perdait les matchs à la fin comme ça. Voilà, je pense qu'on est dans une bonne dynamique, j'espère que ça va continuer. Il ne faut pas, surtout pas qu'on se relâche, il ne faut pas qu'on se voit beau et gravir marche après marche.
Ce soir, les Bleus peuvent donc respirer. Ils sont encore en vie dans ce mondial. La route des quarts de finale est même dégagée, de quoi être plus serein avant le prochain match contre les États-Unis dans 10 jours. Tokyo, Simon Rubin, Europe 1.
Et le prochain match, c'est face aux Américains, effectivement, le 2 octobre. On y reviendra dans le journal des sports dans 10 minutes. Si je vous dis « World Clean Day », vous me répondez, Wendy ?
In English ?
Traduction.
À vos sacs poubelles, oui.
Jour du grand nettoyage de la planète et surtout l'occasion de mettre en lumière de formidables initiatives pour rendre plus propre notre environnement et faire prendre conscience que la nature est fragile. Comme par exemple à Cannes, sur la Côte d'Azur, où Jacques Terrance a suivi la plongée d'apnéistes sur la plage de la Croisette.
Pascal, il y a quelques déchets, tu peux les ramasser à ma place ?
Quand on est apnéiste, les fonds marins, forcément, ça vous concerne. Alors avec seulement un masque et un tuba, Laurent Lombard et d'autres plongeurs ramassent ce qu'on ne voit pas à quelques mètres sous l'eau, canettes de soda, barquettes en plastique ou même des trouvailles plus insolites.
On essaye de sortir une chaise, mais elle est coincée au milieu des rochers.
Vous n'y arrivez pas ?
Non, impossible. Elle est coincée sous les rochers.
Il y a beaucoup de choses là au fond ?
Un petit peu, on a enlevé une 5 ou 6 gros sacs de déchets. On les remonte, on va les amener sur la plage, on va trier et après ça partira à la déchetterie.
Un balai sous le regard interloqué des touristes, comme ce petit Canadien de 7 ans qui lui aussi sort de l'eau.
C'est pas vraiment propre, il faut qu'on pense plus à faire à ramasser.
T'as envie d'y retourner ou pas ?
Non, non, pas vraiment.
Et sur la plage, Laurent Lombard a étalé tout ce qu'il a ramassé pour appeler le grand public à la prise de conscience.
On ramasse là peut-être un millionième de ce qu'il y a dans la mer, c'est dérisoire. Là, les déchets descendent jusqu'à 200, 300, enfin dans les fosses, jusqu'à 1000 mètres. Et là, personne ne les ramassera par contre. Donc c'est pour ça qu'il faut faire un travail à terre. À expliquer aux gens que quand on jette quelque chose par terre, ça finit en mer.
Et la conséquence, elle est tellement évidente pour Simon, même pas 4 ans.
Parce que sinon, les poissons mangent et ils vont s'étouffer.
Exactement. Cannes, Jacques Terrance, Europe.
Et puis ce sont les journées du patrimoine à travers toute la France, avec des entrées sur inscription assez réglementées à Paris, je pense à l'Élysée, à Matignon, à l'Assemblée nationale. Mais ailleurs, la liberté totale. À Bordeaux, par exemple, vous pouvez découvrir pour la première fois à la basilique Saint-Michel, Fabienne, un rétable dont l'histoire est incroyable.
Bien oui. Imaginez, Wendy, que pendant des années, ce sont des panneaux en faux plâtre qui trônaient dans la basilique, posés par des voleurs qui voulaient cacher le fait qu'ils avaient justement volé de superbes panneaux en albâtre qui ont enfin retrouvé leur place. L'histoire, c'est notre correspondant à Bordeaux, Stéphane Place, qui nous la raconte.
En 1993, une conservatrice du Louvre donne l'alerte. Chargée d'expertiser des panneaux d'albâtre après le décès d'un antiquaire parisien, cette spécialiste est frappée par leur ressemblance avec ceux de la basilique Saint-Michel, ici à Bordeaux, à tel point qu'elle prévient la mairie. C'est tout de même curieux. L'intuition est bonne. Ces pièces religieuses du XVe siècle, d'une cinquantaine de centimètres de haut, ont bien été dérobées 9 ans plus tôt. Mais personne ne s'en était aperçu et pour cause, les voleurs ont comblé le vide. Fabien Robert, premier adjoint au maire de Bordeaux.
Ils vont se faire enfermer plusieurs nuits dans la basilique pour faire des moulages des albâtres. Ils vont ensuite réaliser des faux plâtres de ces albâtres. Ils vont revenir d'autres nuits pour réinstaller ces faux plâtres et récupérer les vrais albâtres. Si bien que lorsque on nous signale que semble être sur le marché des albâtres bordelaises, le premier conservateur qui va aller dans la basilique, de loin, derrière des grilles, va observer le retable et dire non, on les a, pas de problème. Puis comme quand même ça paraît vraiment être les nôtres, on va aller voir de plus près et là en grattant, on s'aperçoit que c'est du plâtre.
Le vol est prescrit, mais il faut retrouver ces panneaux. Alors le FBI et la diplomatie française vont mener l'enquête avec à la clé des négociations rocambolesques pour obtenir 35 ans après le retour des 4 dernières sculptures, désormais surveillées de près. Bordeaux, Stéphane Place, Europe 1.
Et les Journées du patrimoine, ça continue demain toute la journée.
Merci Fabienne Lemoyle, à demain.
Et c'était le journal donc de Fabienne. Bonne fin de journée avec nous sur Europe 1. Il est déjà 18h13, tout juste.
Et l'heure de faire le point sur la météo, parce que ça se corse avec toujours de la pluie demain dans le sud-est. On vous écoute Valérie Darmon sur les vigilances, pluie, orages et inondations.
Effectivement, autour de l'arc méditerranéen, en remontant vers la Drôme et l'Ardèche, les conditions restent agitées. Il pleut tout au long de la journée et le vent aussi est soutenu sur la Méditerranée ainsi qu'en Corse. Les rafales vont atteindre 60 à 70 km/h. Une tramontane assez forte va s'installer aussi en fin de journée. À l'ouest, la perturbation arrivée aujourd'hui sur la pointe bretonne va arroser la façade ouest de la France au lever du jour et à la mi-journée. Elle va s'étendre de la Normandie au Val-de-Loire, du Poitou vers l'Aquitaine et les Pyrénées. Et puis l'après-midi, des Hauts-de-France vers la Bourgogne, l'Auvergne et la Méditerranée. Et en soirée, elle va toucher les Alpes et le Grand Est. Vous l'avez compris, le programme de ce dimanche est pluvieux et surtout orageux, avec des cumuls importants par endroits. À l'arrière, c'est un ciel plus variable qui va s'installer, alternant entre passages nuageux porteurs de quelques averses et d'éclaircies de plus en plus larges en allant vers l'ouest. Les températures sont assez homogènes, minimales entre 13 et 17 degrés, maximales entre 17 et 25.
Merci Valérie Darmon, à tout à l'heure 18h30 sur Europe 1. Wendy Bouchard, des milliers de personnes étaient réunies à Paris aujourd'hui et on ne parle pas que des journées du patrimoine, bien sûr.
Ouais, non, on va revenir sur cette journée de mobilisation. Trois cortèges à Paris, 152 personnes interpellées. Comment ont éprouvé cette journée, comment les forces de l'ordre ont-elles éprouvé cette journée? On en parle avec notre invité, Christophe Rouget, commandant de police, juste après la pause.
Jusqu'à 20h, nous sommes avec Wendy Bouchard, c'est votre grand journal du soir sur Europe 1. Nous revenons à présent avec votre invité Wendy sur les manifestations de l'après-midi dans une capitale ultra contrôlée, 7500 policiers et gendarmes déployés.
Et un 45e épisode des Gilets jaunes rapidement éclipsé par l'infiltration dans la marche pour le climat de manifestants radicaux pour réagir à cette journée de slogans et de contestations. Christophe Rouget est avec nous, bonsoir Christophe Rouget.
Bonsoir.
Commandant de police, secrétaire général adjoint du syndicat des cadres et de la sécurité intérieure. Journée tendue, 163 interpellations parce que ça grimpe, 395 verbalisations, mais débordements contenus. Quel bilan vous tirez vous-même du travail des forces de l'ordre, Christophe Rouget, ce soir?
À ce stade, nous avons effectivement un bilan qui est satisfaisant parce que nous n'avons pas eu beaucoup de blessés parmi les manifestants, parmi les policiers, pas beaucoup de biens qui ont été dégradés, mais malheureusement, la journée n'est peut-être pas finie encore, il faut se méfier, les fins de manifestation sont parfois difficiles. Oui, nous avons réussi à contenir ces manifestants, mais à quel prix encore? Ces 7500 policiers qui ont été réquisitionnés depuis tôt ce matin. Alors le service a bien fonctionné, on a fait beaucoup de prévention, des contrôles en amont où beaucoup d'objets dangereux ont été saisis. Mmh. On a interpellé des gens qui étaient dangereux et on a mis en place des stratégies de mouvement pour contrôler ces black blocs qui ont pu, comme on l'a vu, se former, mais qui ont été rapidement dissous grâce à l'intervention des forces de police.
Avec cette consigne que nous rappelait Chloé Triomphe tout à l'heure, la dispersion rapide des forces de l'ordre, la mobilité aussi des troupes, et on peut parler avec vous du travail des équipes de la Brave, brigade de répression de l'action violente, qui est cette brigade motorisée qui a donc vu le jour après ces différents événements de samedi de Gilets jaunes. Opérationnelle cette Brave?
Opérationnel comme toutes les autres équipes, parce que c'est un élément du dispositif.
Bien sûr.
À chaque samedi, on a remis en cause, il y a eu des réflexions qui ont été faites sur le maintien de l'ordre pour que les policiers, l'ensemble des policiers, les forces mobiles, les CRS, les gendarmes mobiles, mais aussi tous les autres policiers qui sont sur le terrain, puissent mieux communiquer entre eux. Et ensuite utiliser d'autres moyens, comme les motos, pour aller plus vite d'un endroit à l'autre, parce qu'on a vu aujourd'hui des mouvements entre des ultra-jaunes, puisqu'il n'y a presque plus de black bloc, on va dire, c'est des yellow bloc qu'on est aujourd'hui, mmh. Des gens qui essayent de s'infiltrer dans les manifestations classiques et qui d'ailleurs empêchent les gens de manifester, puisque finalement, vous voyez, les organisateurs de ces manifestations pour le climat ont dû dire arrêtez, partez de la manifestation.
C'est ce que j'allais vous dire, Christophe Rouget.
Hein. Qui viennent que pour casser.
Ce sont des nouvelles minorités de blocage finalement, hein, entrave à la liberté de manifester.
Exactement, ces personnes-là, alors qu'il y a eu des manifestations, par exemple à Toulouse pour le climat hier, qui se sont déroulées dans un calme parfait, et vous voyez, on se retrouve là avec des gens qui empêchent les autres de manifester, qui commettent des dégâts, parce qu'il y a eu quand même encore des dégâts et des feux dans la rue cet après-midi à Paris, et qui empêchent les gens de s'exprimer correctement dans la rue.
La préfecture de police le savait, elle avait d'ailleurs signalé ce matin qu'un millier de manifestants radicaux se trouveraient dans les manifestations. Il y avait cette possibilité d'infiltration dans le cortège climat, ce qui a eu lieu. À partir du moment où on connaît ces éléments, est-ce qu'on ne peut pas faire évoluer aussi les consignes de prévention à leur égard, Christophe Rouget?
Elles ont évolué considérablement. D'abord, il faut souligner le travail de tous les services de renseignement, que ce soit sur les réseaux sociaux, mais aussi sur le terrain. On a fait évoluer les dispositifs pour que ces personnes puissent être interpellées. On voit bien qu'il y avait eu beaucoup de gens qui ont été verbalisés, qu'il y a des gens qui ont été interpellés en amont. Donc, tout ce travail, il a été fait. Mais après, il y a toujours des gens qui arrivent, qui sont sur place depuis plusieurs jours. Il y a des gens qui sont venus, qui ont caché des affaires dans les rues précédemment à cette manifestation. Donc, il y a toujours des gens qui sont à l'intérieur de ces manifestations et qui se servent de boucliers humains, en fait, de ces personnes qui viennent manifester tranquillement pour, eux, commettre des exactions.
C'est là où la difficulté réside pour les forces de l'ordre. Voilà, jouer au chat et à la souris avec ces éléments très, très violents. Les messages et les consignes, cela dit, ont été envoyés en temps réel sur Twitter. La préfecture a été très réactive. Intervention avec moyens lacrymogènes, désolidarisez-vous des groupes à risque. Voilà les messages qu'ont pu obtenir en direct les manifestants.
Tout à fait, je crois qu'il faut utiliser les réseaux sociaux comme ces groupes violents les utilisent. La police doit prévenir les gens sur les manifestations et oui. Il faudra même qu'on fasse évoluer nos sommations pour que les gens qui soient sur le terrain puissent voir que la police va intervenir et que les gens honnêtes, les gens qui manifestent correctement, puissent s'en aller et ne servent pas de protection à ces casseurs.
Alors, est-ce qu'on peut dépasser un peu l'idéologie ? Parce qu'on voit, et vous êtes très, très, très actif aussi sur les réseaux sociaux, Christophe Rouget, ces messages circulaient par exemple ce soir, « Bravo Macron, la marche pour le climat qui fait demi-tour sur le boulevard Saint-Michel car trop de gaz ». Là, on ne peut pas le reprocher aux forces de police qui, évidemment, essayent de faire le maximum pour préserver la sécurité des manifestants.
Tout à fait. La preuve en est, c'est qu'il y a eu des manifestations pour le climat ces jours-ci, il y a des manifestations régulières sur le climat, elles se passent toutes bien. Il n'y a eu aucun problème de maintien de l'ordre sur les manifestations sur le climat qui ont parfois réuni des milliers de personnes. Donc c'est vraiment lié au type de manifestants. Et lorsque vous avez des gens qui veulent en découdre, on a vu les affiches qui étaient sur les réseaux sociaux qui appelaient très clairement à ce qu'il y ait des black blocs qui viennent. Donc c'est ces personnes-là qu'il faut neutraliser. Et là, c'est plus de la liberté de circulation, c'est plus la liberté de manifester, c'est des délinquants qu'on doit interpeller.
Donc c'est envers les black blocs que les stratégies de dissuasion, de prévention doivent encore évoluer, Christophe Rouget, que le travail reste à accomplir ?
Toujours, mais c'est toujours très compliqué parce que c'est des gens qui changent, qui sont dans des groupes qui sont en concurrence, ce sont des gens qui sont mobiles, ce sont des gens qui changent souvent, donc il y a des évolutions et puis en plus on a des gens comme ces manifestations durent depuis presque un an maintenant, qui ont appris aussi chaque samedi et qui ont développé des nouvelles stratégies, donc il faut en permanence se remettre en question pour être efficace contre eux.
Ben, on suivra l'évolution aussi de votre stratégie d'action. Christophe Rouget, commandant de police et secrétaire général adjoint du syndicat des cadres de la sécurité intérieure. Merci d'avoir fait avec nous le point en direct.
Et merci d'avoir choisi Europe 1. Vous écoutez votre grand journal du soir, 18h22, c'est l'heure du journal des sports, Wendy Bouchard.
Absolument, j'accueille Axel May en studio. Bonsoir Axel.
Bonsoir.
Avec les sports à la une. Le rugby, le foot, les sports mécaniques ce samedi.
Oui, à la Coupe du Monde de rugby, vous entendrez l'arrière Thomas Ramos soulagé après le premier succès sur le fil des Bleus face aux Argentins. En Ligue 1, Marseille souffre, pour ne pas dire plus en ce moment, face à Montpellier. Et en Formule 1, Charles Leclerc de nouveau auteur de la pole position, tandis qu'en MotoGP, Fabio Quartararo de nouveau en première ligne.
23-21 pour commencer, c'est sur cette courte victoire donc que la France a gagné son premier match de la Coupe du Monde de rugby.
Largement en tête à la mi-temps, rattrapé puis dépassé en seconde période, les Bleus ont réussi à s'imposer sur le fil grâce à un drop réussi et grâce aussi, il faut le dire, à une pénalité argentine ratée. Bref, l'arrière Thomas Ramos pouvait souffler à l'issue du match.
Soulagé forcément parce que ça fait plus de deux mois qu'on travaille pour ce premier match, donc oui, il y a du soulagement et il y a de la joie aussi parce que il était tellement important de gagner ce premier match, donc forcément on est tous très très contents de pouvoir l'emporter.
Thomas Ramos au micro de l'envoyé spécial d'Europe 1 au Japon, Simon Rubin. Et puis à noter qu'on vient d'apprendre que l'un des internationaux bleus, Wesley Fofana, déclare forfait pour la suite de la Coupe du Monde. On en reparlera bien sûr dans le journal de 19h.
Bon, c'était l'entrée pour les Bleus dans ce mondial. Autre match de poule joué ce matin, Axel May, Nouvelle-Zélande, Afrique du Sud.
Et victoire des doubles champions du monde en titre, 23-13. Réaction du sélectionneur sud-africain. La Nouvelle-Zélande méritait de remporter ce match, notamment en raison de sa discipline.
On revient en France avec du foot et la sixième journée de Ligue 1. Marseille affronte Montpellier en ce moment.
Marseille qui était menée par Montpellier avant la mi-temps. C'est donc la mi-temps et la seconde période débute. Stéphane Frangy au Vélodrome.
Pas tout à fait la mi-temps qui vient d'être sifflée. Retour au vestiaire pour les joueurs et ce score, bien sûr, vous le disiez, 1-0 pour Montpellier. Le but autour du quart d'heure de jeu qui est en fait un contre son camp du défenseur marseillais Bounassar, qui a été surpris par la trajectoire d'une balle, un centre de Florent Mollet. Montpellier qui avait déjà mis une petite alerte au Vélodrome et ce but refusé quelques minutes auparavant, Andy Delors, pour une position de hors-jeu. Et pourtant c'est les Marseillais qui ont plutôt fait le jeu, qui ont mis la pression. Les Montpelliérains ont su faire le dos rond, ils s'en sont remis notamment à leur gardien Geronimo Rulli, arrivé à l'intersaison, qui les a sauvés à trois reprises sur des frappes marseillaises de Maxime Lopez, Valère Germain ou encore Dario Benedetto. Marseille qui pousse mais qui n'y arrive pas. Marseille qui a également perdu sur blessure, c'est la mauvaise nouvelle, son défenseur Alvaro Gonzalez. Il faudra pousser un petit peu plus en seconde période, mais il y a de la place, on le sent, avec les volontés marseillaises. Mais ça fait pour l'instant 1-0 pour Montpellier à la pause.
Stéphane Frangy à Marseille ce soir. 5 matchs au programme de cette 6e journée de Ligue 1, dont Reims-Monaco.
Monaco, dont on va reparler ce soir. En effet, bonsoir Lionel Rosso.
Bonsoir Wendy.
À partir de 20h, l'entraîneur Leonardo Jardim est plus que sur la sellette.
Avec Monaco, en effet, qui se déplace à Reims. Monaco est 19e et Jardim est menacé. Alors on se souvient qu'il a beaucoup apporté à Monaco ces dernières années, notamment un titre de champion de France en 2017 avec la concurrence du Paris Saint-Germain. Il est parti la saison dernière remplacé par Thierry Henry, puis il est revenu avant la fin de la saison puisque les résultats de Henry étaient catastrophiques, avec un salaire qui a été multiplié par 2. Il a tout obtenu également en termes de mercato, plus de 100 millions d'euros d'investissement pour une équipe qui aujourd'hui est 19e. Sûr. Et qui n'a toujours pas gagné dans ce championnat. C'est vraiment impensable. Et donc Jardim, effectivement, plus que jamais menacé. En général, c'est le fusible, l'entraîneur, quand ça ne va pas. Et on parle beaucoup de Claude Puel pour le remplacer.
Bon, scrutez les Monégasques ce soir, à tout à l'heure. Lionel Rosso, on ajoute Axel qu'en Ligue 2, dans le match du samedi, Lens a battu cet après-midi Caen 2-0.
Et puis dans le championnat anglais, le succès cet après-midi de Manchester City face à Watford. Je vous en parle parce que le succès a été très large. Mmh. 8-0 pour Manchester City.
Un petit mot du ballon rond féminin quand même.
Les Lyonnaises remportent au tir au but face aux Parisiennes la première édition du trophée des champions, plutôt le trophée des championnes. Là aussi, on en reparlera plus en détail dans le journal de 19h.
Mais où s'arrêtera-t-il? On est en Formule 1, troisième pole position consécutive du jeune pilote Charles Leclerc.
Oui, sur le circuit urbain de Marina Bay à Singapour, qui ne favorise en principe pas les Ferrari, eh bien, le jeune monégasque a été le plus rapide lors des qualifications et partira donc demain matin en première position devant le champion du monde Lewis Hamilton sur sa Mercedes. En MotoGP, Fabio Quartararo était passé tout près de la première victoire de sa jeune carrière à Saint-Marin la semaine dernière. Eh bien, le pilote niçois de 20 ans a aujourd'hui terminé deuxième des qualifications du Grand Prix d'Aragon en Espagne, derrière le favori Marc Marquez. Pour Claude Michi, promoteur du Grand Prix de France et qui connaît bien Quartararo, son premier succès en MotoGP ne devrait pas tarder.
Tous les ingrédients sont additionnés pour Fabio. Lui, la machine, l'entourage qu'il a. Si vous voulez, il y a aujourd'hui un ensemble de choses où toutes les lumières sont dans le bon sens. Alors, on sait que ça aussi, ça peut être éphémère, hein, mais c'est c'est de toute façon de la graine de très grands champions.
Voilà, Claude Michi à propos de Quartararo, c'est le Grand Prix d'Aragon en MotoGP.
Merci Axel, mais la suite des sports, 19h10 sur Europe 1.
À suivre, un point rapide sur l'actu de ce samedi 21 septembre, la météo, et puis on refait l'actu, Wendy.
Autour du débat sur l'immigration, Emmanuel Macron qui veut en finir avec le laxisme en la matière, deux parlementaires face à face pour nous répondre.
18h29, nous sommes avec Wendy Bouchard jusqu'à 20h sur Europe 1. C'est votre grand journal du soir.
Avec l'essentiel de l'actualité de ce samedi 21 septembre, Lénaïque Monnier.
Bonsoir. 15 200 personnes ont participé cet après-midi à la marche pour le climat. Ça s'est passé à Paris. Des comptes exécutés par le cabinet indépendant Occurrence. Marche perturbée par un millier de Black Blocs et de Gilets jaunes qui avaient rejoint le cortège. Dégradation et heurts avec les forces de l'ordre. À cette heure, on compte 163 interpellations. Les chasubles rouges de Force ouvrière, de leur côté, ont défilé vers Denfert-Rochereau contre la réforme des retraites et à l'appel du syndicat. Ils étaient plusieurs milliers à manifester dans le calme. Fin de la vigilance orange dans l'Hérault et les Pyrénées-Orientales. Météo France a levé l'alerte pluie, inondation et orage à 16h cet après-midi. Le foot, et c'est la 6e journée de Ligue 1 avec Marseille-Montpellier. Montpellier mène 1-0 après un but contre son camp de l'Olympique de Marseille. C'est la pause. Ce soir sur Europe 1, c'est le multiplex avec Nîmes-Toulouse, Nice-Dijon ou encore Bordeaux-Brest. À suivre demain, Lyon-PSG sans Mbappé, Cavani, Icardi. Un Lyon-PSG, c'était aussi le programme du premier trophée des championnes, remporté il y a quelques instants par les Lyonnaises au tir au but. Et puis un premier pas de franchi pour le 15 de France à la Coupe du Monde de rugby, 23-21 face aux Argentins. Wesley Fofana vient de déclarer forfait pour la suite de la compétition. Il sera remplacé par Pierre-Louis Barassi. Victoire aussi sans surprise de la Nouvelle-Zélande. Les All Blacks ont battu l'Afrique du Sud. Premier gros choc remporté 23-13.
Merci Lénaïque, à tout à l'heure. Voici le petit point météo. Avec des orages demain dans le sud-est et l'Hérault en alerte orange. Orages, pluie et inondations, Valérie Darmon.
Tout à fait, les intempéries se poursuivent en Méditerranée avec d'importants cumuls de précipitations en Languedoc et demain midi, l'instabilité gagnera la quasi-totalité de la France avec des averses orageuses du sud-ouest aux Ardennes. Les pluies se feront plus rares à l'ouest avec un temps plus variable et même de belles éclaircies. La douceur sera toujours généralisée en notre matinée dominicale avec 13 à 21 degrés, mais les maximales seront en nette baisse dans les régions centres. Encore élevé à l'est, avant les pluies et les orages qui arriveront en fin de journée. Il fera 15 degrés au centre de la France et 26 dans le Grand Est.
Merci Valérie Darmon. On refait l'actu à présent sur Europe 1 avec un thème à la une qui a fait réagir toute la semaine, Wendy Bouchard.
Et en l'occurrence, la position d'Emmanuel Macron qui veut regarder en face le sujet de l'immigration avec un débat sans vote à l'Assemblée nationale le 30 septembre et un discours lundi qui a semé le trouble dans la majorité. Deux parlementaires sont avec nous ce soir sur Europe 1. Julien Aubert, député Les Républicains du Vaucluse. Bonsoir.
Bonsoir.
Et Mathieu Orphelin, député non inscrit du Maine-et-Loire. Bonsoir Mathieu Orphelin.
Bonsoir à vous.
Julien Aubert, voici ce qu'a dit le président il y a quelques jours. Donc, en prétendant être humaniste, on est parfois trop laxiste. Est-ce que ce n'est pas aussi une manière d'occuper l'espace jusqu'à présent conquis sur cette fermeté par l'extrême droite?
C'est de la fumisterie. On ne va pas, si vous voulez, s'extasier parce qu'Emmanuel Macron, au bout de 2 ans de présidence, découvre qu'il y a un problème migratoire en France. Quand vous êtes un véritable demandeur d'asile persécuté dans votre pays, eh bien vous vous retrouvez noyé dans une masse de demandes provenant de gens qui ne sont pas véritablement des demandeurs d'asile. Et donc, quelque part, vos droits sont spoliés.
En tout cas, vous qui avez quitté le groupe La République En Marche, Mathieu Orphelin, pour acquérir une autre liberté, comment voyez-vous ce changement? Droitisation du mouvement, durcissement de ton réaliste, votre analyse sur le sujet?
Moi, je crois que c'est très important. C'est bien qu'on puisse parler immigration. On voit que l'accueil en France ne se passe pas bien avec un certain nombre de demandeurs d'asile qui se retrouvent dans les rues. Et donc ça, effectivement, ça crée tout un tas de tensions qu'on peut comprendre. Donc il faut qu'on améliore les conditions d'accueil, de protection et puis de reconduction en dehors des frontières pour ceux qui ne peuvent pas bénéficier de l'asile chez nous. Mais réfléchissons à des réponses nationales et européennes, par exemple sur les sauvetages en mer Méditerranée, certains pays dont la France est assez volontariste aujourd'hui sur le sujet pour enfin trouver des réponses européennes sur savoir dans quel port accostent les bateaux qui ont secouru en mer les personnes. Aussi, comment on va pouvoir anticiper des questions comme les déplacés environnementaux. Tout ça, c'est des vrais sujets. Ça ne veut pas dire des gens qui vont forcément arriver en plus en France, contrairement à ce que beaucoup essayent de faire savoir. Mais comment on arrive à mieux anticiper viennent chez nous? Moi, je suis fondateur.
C'est bien pour ça qu'Emmanuel Macron veut un débat, probablement. Oui, annuel. Julien Aubert, votre réaction?
Non, mais moi, ce qui me frappe, si vous voulez, c'est que, en fait, dans le raisonnement, dans l'axiome de Mathieu Orphelin, il y a l'idée qu'une politique migratoire, c'est une politique qui vise à voir comment est-ce qu'on répartit les flux, en les considérant comme une donnée. Je plaide plutôt pour un blocus maritime, où la marine nationale arraisonne les navires de clandestins illégaux, et où, si vous voulez, on envoie un signal très clair par rapport à ces flux.
Après, est-ce que vous voulez un mécanisme de répartition des demandeurs d'asile à l'échelle européenne, alors, comme le souhaite Emmanuel Macron?
Alors, certainement pas, si vous voulez, c'est une atteinte à la souveraineté.
Julien Aubert, la moitié des migrants viennent d'Europe aujourd'hui, c'est bien que le problème est aussi européen.
Oui, enfin, excusez-moi, mais les gens qui sont sur les bateaux, ils ne viennent pas d'Europe. Ce sont des gens qui viennent d'Afrique noire, et qui sont d'ailleurs victimes de passeurs d'esclaves. Donc,
autre sujet qui a été mis sur la table par la porte-parole du gouvernement, je voudrais que vous l'écoutiez, Sibeth Ndiaye, sur le dévoiement du droit d'asile. Écoutez.
De manière plus récente, nous avons vu une évolution de la nature des demandeurs d'asile avec une émergence d'un certain nombre de nationalités en provenance de pays qu'on a qualifiés de pays d'origine sûrs, de pays qui appartiennent au continent européen et qui légitimement nous amènent à nous poser des questions sur le fait qu'il pourrait y avoir une forme de dévoiement du droit d'asile puisque le droit d'asile s'adresse à des personnes qui sont dans un besoin de protection.
plus de tabou, on met tout sur la table. Julien Aubert, Mathieu Orphelin, sur le sujet de l'immigration.
Oui, non, mais le droit d'asile est dévoyé. Enfin, il n'y a qu'à voir les flux. C'est-à-dire que je crois que les flux ont été multipliés en 30 ans par 5.
Par 5,
donc,
absolument.
Ça pose une, si vous voulez, une vraie difficulté. Parce que, en réalité, le droit d'asile, il avait été pensé pour accueillir effectivement une catégorie très particulière de gens. Aujourd'hui, il est utilisé comme un moyen de rester sur le territoire avec un motif légal. On a transformé le droit d'asile en une forme de d'immigration semi-légale, semi-légale, qui n'y
pas
son nom.
En tout cas, il y a cette situation financière et matérielle que vous connaissez bien aussi dans le Maine-et-Loire, Mathieu Orphelin, avec ces centres d'accueil d'urgence, cette nécessité aussi de doubler le budget alloué à l'aide médicale d'État. C'est aujourd'hui 1 milliard d'euros. Ce sont des choses dont il faut parler aujourd'hui clairement, comme souhaite le faire le gouvernement, vous associant, vous parlementaires.
Sur une évolution forte de l'aide médicale d'État, non, je ne suis pas favorable à une évolution de ce dispositif, parce qu'effectivement, derrière, c'est une question de santé publique. Préserver la santé de ceux qui ont le moins, et là notamment des demandeurs d'asile, c'est aussi un geste de santé publique. Donc il faut regarder ces sujets-là dans leur complexité. Il faut se sortir.
C'est aussi les vacciner pour éviter le retour de maladies oubliées.
Exactement, la vaccination, c'est aussi traiter des maladies avant qu'elles ne dégénèrent, parce que sinon les gens vont arriver aux urgences et donc on perdra beaucoup plus que ce que l'on aurait voulu économiser.
Je ne suis pas d'accord avec Mathieu Orphelin. L'aide médicale d'État, on est passé de 500 millions d'euros à 1 milliard d'euros. Aujourd'hui, vous avez des Français qui ont du mal à se soigner, qui sont au chômage, et où on leur explique qu'on dépense 1 milliard d'euros sur les mineurs non accompagnés, 1 milliard d'euros sur l'aide médicale d'État. Ça n'est pas tenable, et c'est pour ça que l'aide médicale d'État, selon moi, devrait être réduite aux aides d'urgence, parce qu'on ne va pas, quelqu'un qui est rentré illégalement sur le territoire et qui se fait renverser par une voiture, on ne va pas le laisser là. Et ou alors donner également un forfait, faire cotiser, si vous voulez, faire payer au moins une partie du coût, même minime.
Il y avait un droit d'entrée à l'époque de Nicolas Sarkozy qui a été supprimé.
Mais vous savez,
par
moi j'avais étudié l'AME, les équivalents de l'AME dans tous les pays européens, la France, puisqu'on parle toujours d'harmonisation européenne, la France est le pays le plus laxiste sur ce sujet-là. Et en fait, c'est le serpent qui se mord la queue, c'est-à-dire que parce qu'ils savent, si vous voulez, qu'ils vont être soignés, notamment par exemple les sujets de tuberculose, ils viennent en France. Il est évident que si vous envoyez un signal comme quoi c'est plus pris en charge, ils ne viendront plus en France et donc les risques de contamination ils seront plus faibles.
C'est intéressant parce que Mathieu Orphelin, vous avez une posture républicaine, à vous de nous l'expliquer. Vous avez annoncé que pour ce débat sans vote, vous allez céder vos 5 minutes de temps de parole au parti de Marine Le Pen, qui n'a pas de groupe parlementaire, qui ne pouvait pas en disposer. Donc vous leur donnez ces 5 minutes de temps pour, par exemple, parler de l'aide médicale d'État, pour mettre ces sujets à plat qui risquent de crisper.
Pourquoi Marine Le Pen et le Rassemblement National, depuis plusieurs jours, essayaient de faire croire qu'ils étaient bâillonnés à l'Assemblée nationale. Ce qui est évidemment totalement faux, puisque si on les entend si peu à l'Assemblée nationale, c'est qu'ils sont quasiment jamais là et qu'ils ne prennent quasiment jamais la parole. Donc là, j'ai voulu couper l'herbe sous le pied sous cette fausse polémique.
Ils pourront les mettre devant leurs responsabilités.
Mais voilà, échangeons sur les vrais sujets.
Sujet crucial en tous les cas. Messieurs Julien Aubert, Mathieu Orphelin, vous serez l'un et l'autre dans l'hémicycle le 30 septembre. J'imagine, vous vous emparez aussi de cette réflexion sociétale. Mathieu Orphelin.
Évidemment, mais on voit qu'il y a des options complètement. Il y a des options, et le débat là le montre, complètement différentes. Moi, je préfère aborder ce sujet aussi par l'intégration, discuter aussi migration économique sur certains secteurs où on peut être en tension chez nous. Il y a plein de façons d'aborder cette question sans être dans la posture de « on ferme toutes les frontières » et la peur de l'étranger brandie comme un argument électoral. Ou autre.
Mathieu Orphelin, député non inscrit du Maine-et-Loire, merci de votre présence ce soir sur Europe 1, ainsi que Julien Aubert, député Les Républicains du Vaucluse, candidat par ailleurs à la présidence des Républicains.
Merci beaucoup à vous.
Mais votre grand journal du soir se poursuit dans un instant sur Europe 1 avec l'interview découverte, Wendy Bouchard.
Oui, mercredi, vous découvrirez au cinéma un film puissant, réaliste, poignant, qui donne envie de se battre pour un nouveau monde agricole. Édouard Bergeon nous parle de son histoire, de celle de son père, de la ferme familiale qu'il dépeint avec force dans Au nom de la terre. À tout de suite.
Il est 18h41, votre grand journal du soir, la suite sur Europe 1. Et maintenant, Wendy Bouchard, vous recevez quelqu'un qui projette son premier film Au nom de la terre un petit peu partout en France avant sa sortie en salle au cinéma. Mercredi.
Oui, absolument, c'est Édouard Bergeon. Bonsoir Édouard.
Bonsoir Wendy.
80 villes de France dans lesquelles vous avez projeté ce film bouleversant, je le redis, à la fois personnel et universel, Au nom de la terre. L'accueil à chaque fois, j'imagine, est extrêmement ému, car ce film est à la fois documentaire, social, engagé, au fond, c'est comme ça que vous l'avez souhaité.
Oui, mais c'est un film de fiction, hein. Oui. Mais oui, c'est très inspiré de mon histoire. En fait, je suis fils d'agriculteur, petit-fils d'agriculteur des deux côtés, du côté de mon père, du côté de ma mère. Et on a projeté ce film en avant-première depuis 3 mois dans 80 villes. J'ai vraiment labouré la France parce que c'était important justement d'aller semer les premières graines en fait de ce que peut donner ce film et puis de le montrer à des territoires qui peuvent être souvent oubliés. Il y a quand même une fracture sociale entre la campagne et puis les zones de décision. Comme il y a une fracture alimentaire aujourd'hui, on a peut-être plus conscience que ce sont nos paysans qui remplissent notre assiette et que notre assiette, c'est notre santé. Mais derrière chaque assiette, il y a nos paysans. Et un tiers ne gagne que 350 euros par mois.
Oui, il y a cette réalité aussi terrible. C'est qu'un paysan se suicide tous les jours en France aujourd'hui.
C'était un hier, un aujourd'hui, il y en aura un autre demain.
Ouais. Au moment où nous parlons, vous attendez évidemment ce sursaut citoyen. Je vous ai connu et vous êtes toujours journaliste Édouard Bergeon, mais aujourd'hui aussi cinéaste. Vous ne faites pas de politique, mais vous êtes citoyen, fils d'agriculteur. Est-ce que vous avez le sentiment quelque part de venger un peu votre papa avec ce film-là contre un modèle social qui n'a plus lieu d'être ?
Je crois que mes parents, mon père, ma mère ont crié très fort au fond de leur ferme et qu'ils n'ont pas été entendus face à un système qui les a broyés. Depuis qu'on est passé dans une économie de consommation, en fait. Hein. Je ne vous apprends rien, on a financiarisé l'agriculture. Mmh. Pourquoi ? Pour toujours baisser le prix des produits, pour que les consommateurs paient toujours moins cher. Sauf que, il y a un désastre. On supprime les paysans comme ça. Depuis 70, la moitié des exploitants agricoles ont disparu. Et là, c'est vraiment un incendie. Donc,
Et ce sont les seuls professionnels en France qui travaillent à perte. Hein. Ah oui, ça, c'est une réalité aussi.
On n'a pas le droit, normalement, de travailler à perte. Et là, le système fait qu'on vous pousse à investir en votre nom propre dans des cathédrales, quand on construit un bâtiment, par exemple, comme je le montre dans le film. Et derrière, l'agriculteur ne fait pas la facture de ce qu'il vend. Donc, vous imaginez, vous, si à la fin du mois, vous ne savez pas combien vous allez vous gagner, ou même vous allez presque donner de l'argent, en fait. Donc, ce n'est pas possible.
Votre papa qui guide chacun de vos pas, Édouard Bergeon, qui vous a légué un bel héritage, dites-vous, lequel ? Celui de la terre, précisément, parce que c'est au cœur du titre de ce film.
Ouais, je suis en basket à Paris là, mais la terre est amoureuse, elle colle toujours. Mmh. Et comme vous l'avez rappelé, j'ai réalisé pas mal de reportages quand j'étais journaliste et de documentaires. Et régulièrement, j'ai continué à aller voir les paysans parce qu'en fait, ils me le disent. En fait, je suis quelque part leur ambassadeur, sans prétention aucune, mais je sais de quoi je parle parce que j'ai grandi dans la ferme. Et l'agriculture, c'est assez technique et c'est compliqué à expliquer. Ça n'a pas été simple d'écrire ce film pour vulgariser, en gros. Tout ça, mais je suis heureux en fait dans les champs. Et quand j'étais à France 2, je me rappelle que la directrice de l'époque m'appelait l'agricole parce qu'il y avait 350 cartes de presse, mais j'étais le seul fils d'agriculteur.
Vous le disiez, Édouard Bergeon, fictionnel ce film-là, c'est aussi la raison pour laquelle vous n'avez pas tourné dans la ferme de vos parents qui existe toujours.
Oui, puis j'ai écrit un scénario avec des co-auteurs, Bruno Hulmer et Emmanuel Courcol. Et on s'est éloigné de mon histoire personnelle pour ensuite y revenir quand j'ai commencé à apprendre les codes de l'écriture du scénario, parce que je n'y connaissais rien dans le cinéma. Et puis parce que la matière me brûlait moins les doigts. C'était pas simple de commencer à écrire sur mon histoire.
Bien sûr.
Et après, je me suis vraiment fait plaisir. Mais comme c'est une fiction, j'ai cherché un décor. Et en aucun cas, j'ai voulu aller tourner chez moi. Et puis la ferme a évolué, on l'a vendue. Et puis c'est une autre histoire. Là, je raconte... La petite histoire que je raconte la France agricole. Donc, on a trouvé un sublime décor en Mayenne, dans un pays qui s'appelle les Alpes-Mancelles, où il y a des vallons, de la perspective, parce que je voulais faire du cinéma. Je voulais raconter un western avec des perspectives. Mon père avait fait un stage...
Ce qui collait aussi à la peau de votre papa.
Au Wyoming, quand il est en 77-78. C'était avec le lycée agricole, vous voyez, il fallait produire, il fallait aller voir ce qui se passait dans le Nouveau Monde. Et on leur a appris à produire comme ça, donc la mécanisation, la chimie. Mon grand-père le faisait déjà, sauf que dans les années 70, c'était les 30 Glorieuses. Donc ils ont gagné de l'argent, ils ont capitalisé, ils ont acheté des terres, construit un pavillon. Moi, mon père reprend dans les années 80-90, justement, l'économie de marché. Et puis, c'est pas eux qui font la facture, donc... C'était, catastrophe.
Votre père qui est interprété de manière magistrale par Guillaume Canet, dont probablement c'est le film d'une vie. Hein. Il vous a accompagné sur la moitié des étapes de France, une quarantaine de villes. Et il y a cet extrait très fort, cette incompréhension avec son propre père, votre grand-père, interprété par Rufus dans ce film. Clivage de système, clivage de modèle, écoutez.
Si tu m'avais écouté, au lieu d'aller foutre la main dans le système, maintenant il te tienne.
Qu'est-ce que tu veux maintenant, hein ?
Qu'est-ce que tu cherches ? Tiens, regarde-moi sa tête à celui-là. Regarde-le ! T'en es fier ? T'en es fier ? Bah comment tu pourras en être fier ? Moi, de mes moutons, j'en étais fier.
Tes moutons, tu veux qu'on en parle de tes moutons piqués aux antibios et tes veaux gonflés aux hormones? C'est avec ça que tu t'es payé tes terres et ta baraque. T'étais jusqu'au cou dans le système. Et maintenant, viens pas donner des leçons.
Cet échange bouleversant alors que votre père s'est lancé dans l'élevage intensif de poulets, est-ce que vous en avez été témoin pour qu'il soit si puissant, Edouard Bergeon?
Ah oui, j'ai été témoin de plusieurs de ces engueulades entre deux générations qui ne se comprennent plus. Mais ce que je vous ai dit et ce que je montre dans le film, c'est que ceux qui ont mis déjà le doigt et le bras dedans, ce sont déjà les générations des années 60, 70, 80. Ministre de l'Agriculture, Pisani, de Gaulle, qui dit qu'il faut que la France soit un pays autosuffisant en alimentation et fort en agroalimentaire. Donc on y va à plein pot, quoi.
Ce film citoyen sera projeté à l'Assemblée nationale bientôt. Je crois que vous l'avez montré à Emmanuel Macron et Edouard Bergeon.
Oui, donc c'est exact. C'est important que ce film, les députés le voient. On essaie aussi d'organiser une projection au Parlement européen, parce que là, on est en pleine réforme de la fameuse PAC et que les agriculteurs français vont perdre de leurs aides compensatoires parce que les prix du marché n'ont pas augmenté. Vous imaginez que les denrées alimentaires ne sont pas payées plus cher aux agriculteurs qu'à la fin des années 70-80, alors que tous les charges d'inflation ont augmenté. Et oui, on l'a projeté à l'Élysée il y a une dizaine de jours au président Macron et à son épouse. Il a été très très attentif, il nous a écoutés pendant à peu près 5 heures. J'étais là-bas avec des agriculteurs, on a beaucoup travaillé. Et voilà, il avait une grosse connaissance du dossier, et en tout cas je ne peux pas vous en dire plus, mais voilà, on avance.
En tout cas vous faites du cinéma fort et engagé avec les tripes, Edouard Bergeon. En hommage aussi à votre papa, mort à 45 ans, acculé par les dettes, ce n'est pas déflorer votre histoire parce qu'on la connaît, mais vous la comprendrez mieux ainsi traitée. Et on espère que ce film va susciter beaucoup, beaucoup de réactions. Un mot de Guillaume Canet, parce qu'il sera invité demain dans la matinale de Patrick Cohen, dans C'est arrivé demain. Il est totalement acquis à cette cause maintenant, et je pense que votre amitié va soulever des montagnes.
Ouais, on a fait 40 villes ensemble là, pour montrer le film. On a été comme des frères sur le tournage. Guillaume, il a grandi avec les chevaux, il sait conduire un tracteur, il sait manier la fourche, parce qu'il a fait les boxes pendant longtemps. Donc, il a le même âge que mon père avait, 45 ans au moment du tournage. Et voilà, c'est un citoyen, c'est un père de famille qui a peur de ne pas savoir ce qu'il mange. Donc, il se bat et ensemble, on se bat pour ce film qui raconte aussi toute la beauté de vivre à la campagne, avec des magnifiques paysages, avec une liberté incroyable, parce que j'en ai que des bons souvenirs, moi. Mais voilà, il y a des paysans qui souffrent, il ne faut pas l'oublier. Ce sont vraiment eux, je le répète, qui remplissent notre assiette. Et c'est nous, consommateurs, qui avons le pouvoir d'aller voir notre agriculteur du bout du chemin, au lieu d'aller acheter des produits qui viennent du bout du monde, dont on ne sait comment ils sont fabriqués.
Edouard Bergeon, ce film s'intitule Au nom de la terre, avec Guillaume Canet, Rufus, Anthony Bajon, Révélation, et puis une actrice qu'il faut citer qui est exceptionnelle, Virle Batens,
qui est d'Anvers.
Néerlandaise, c'est ça. D'Anvers.
Flamande,
absolument, pardon.
C'est un hommage aux femmes et aux filles de la terre, ce film aussi. C'est la poutre de la famille, la femme de l'agriculteur. Et vraiment, c'est un hommage et elle est forte.
Bravo, Edouard.
Merci, Wendy.
Et à tout de suite sur Europe 1. Avec vous, cher Fabien, qui avait aussi bu les paroles de notre invité.
Ah oui, c'est passionnant.
Vous connaissez aussi la Terre. À tout de suite. Il est 18h52 et vous écoutez Wendy Bouchard, c'est votre grand journal du soir sur Europe 1. Voici maintenant l'un de nos rendez-vous du week-end entre actualité et musique. Une chanson dans la tête avec Fabien Lecoeuvre.
Vous avez failli dire fétiche. Bonsoir Fabien Lecoeuvre.
Bonsoir Wendy, bonsoir à toutes.
Pour remettre les artistes en lumière avec un chanteur qui porte le rap, le pop, le R&B plein de feu en concert ce soir à Nanterre.
Et oui, ce soir, Soprano est sur scène à Paris, à la Défense Arena. Le rappeur, chanteur et auteur-compositeur marseillais qui a déjà 6 albums studio, solo en tout cas à son actif, chantera donc ses plus grands succès tout à l'heure. Mais surtout, un autre événement cette semaine, puisqu'il y a 48 heures, il était honoré de rentrer finalement au musée Grévin.
Il a sa statue de cire, mais à quel âge? À moins de 40 ans.
C'est officiel, à moins de 40 ans.
C'est une consécration.
Ce qui est quand même formidable parce que il a été élu évidemment par tout le comité du Grévin, présidé par Stéphane Bern. Et ça lui faisait très plaisir. J'étais invité de cette soirée. Il y avait toute la famille, évidemment, de Soprano qui était présente dans cette salle, dans ce magnifique théâtre du musée Grévin. Et il était très ému, il avait beaucoup de mal à parler, il n'en revenait pas, parce que l'histoire de Soprano, c'est quand même l'histoire d'une belle revanche.
Oui, et parcours chaotique quand même pour ce jeune homme, né à Marseille,
ayant grandi dans la cité des quartiers nord de Marseille, évidemment. Enfant, il était plutôt timide, mélancolique, on va dire, et même dépressif.
Ah, mais ça, on y reviendra parce que ça émaille sa jeune carrière.
Il avait même pensé au suicide, il en parle lui-même avec beaucoup de recul aujourd'hui, bien sûr. C'est quand même un garçon qui a vendu, on va dire, quand même près de 2 millions d'albums.
Magnifique.
Sur sa courte carrière, déjà.
Avec une chanson qui le raconte. Écoutez, le clown Fabien Lecoeur.
Désolé les enfants si ce soir je ne suis pas drôle, mais ce costume coloré me rend ridicule et me colle. Je me cache derrière ce sourire angélique depuis longtemps. Je ne sais plus m'en défaire, mais qui suis-je vraiment? J'ai perdu mon... Avez-vous vu ma détresse? J'ai l'impression d'être un chien qui sait que ronger sa laisse. Mais ce soir, la salle est pleine. Vous voulez que ça bouge, donc je nettoie ma peine et remets mon nez rouge.
Belle chanson qu'il leur raconte,
oui,
vraiment.
Sa chanson préférée, j'en ai parlé avec lui.
Fragilité de la vie.
Oui, une fragilité. Lorsqu'il l'interprétait au moment de la promotion à l'époque, il se peignait le visage en blanc avec ce nez rouge. Et ça lui permettait justement de raconter peut-être ses... C'est son mal-être
son
profond, comme,
triste,
comme beaucoup d'artistes, souvent.
Il a chanté des chansons lourdes de sens sur le harcèlement scolaire, notamment, qui le raconte une fois de plus dans les épreuves. Écoutez ce duo avec Marina Kaye, bien connu, Mont Everest.
Eh oui.
Tout est possible quand tu sais qui tu es. Tout est possible quand t'assumes qui tu es. Aujourd'hui, regarde-moi contempler mes sacrifices au sommet de Mont Everest.
Quel duo magique.
Magnifique. Il a été membre du jury de Voice Kids, Soprano, très aimé par toutes ces générations à la fois d'enfants, d'adolescents. Il traverse un petit peu les âges.
On aime ses chansons, on aime ses mots, on aime ses rythmes, très importants. Et surtout, lui, il a été très influencé par le groupe IAM, marseillais évidemment.
Bien sûr.
Et lui, quand il était adolescent, il voulait reproduire exactement ce qu'était IAM, c'est-à-dire une structure familiale avec tous ses potes. Et c'est ce qu'a fait aujourd'hui Soprano.
Oui.
Il a engagé tous ses anciens camarades de classe,
c'est
de la 6e, la 5e, la 4e, tout ça à Marseille. Tout le monde travaille ensemble dans une harmonie absolument parfaite. Il a reproduit ce qu'a fait Akhenaton, c'est-à-dire le leader du groupe IAM, en fait. Et ça fonctionne très bien. Toutes ces écritures de chansons, on a écouté En Feu, par exemple. En Feu a été écrit sur l'influence, encore une fois plus, de ces amitiés d'adolescents qui sont restés encore ses amitiés. Et ils étaient tous là au Grévin il y a 48
ans. Ça, c'est beau. Et qui ont commencé avec son groupe, Psychiatre de la Rime. Il a grandi dans le culte aussi des grands auteurs et des grands artistes.
Ah, oui.
Vous nous direz ce que ça vous rappelle, chers amis. Chez vous, écoutez ça.
Le plaisir de l'effort, je l'ai. À chaque fois que je forge les rimes qui aux ennemis créent des orges, je l'ai. Orge là, mes potes qui caillent pour de l'or, je l'ai. Gorge là,
ça, c'est du sample d'Aznavour, version originale, Désormais.
Désormais, on ne nous verra plus ensemble.
C'est donc une inspiration aznavourienne chez Soprano.
Soprano m'a confirmé encore il y a 48 heures, il est très 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 fan de Charles Aznavour, Soprano. Très fan, parce qu'il avait bien sûr samplé déjà ce grand succès d'Aznavour Désormais. Mais surtout, avant d'être chanteur, il avait déjà samplé la chanson La Bohème.
Ouais, sampler, ça veut dire s'inspirer, en récupérant quasiment la rythmique.
Mais ce qui lui plaisait chez Aznavour, au-delà du répertoire, des mots et de la musique, ce qui lui plaisait, c'est l'histoire d'une revanche. Parce qu'à travers la réussite d'Aznavour, finalement, Soprano se projetait lui aussi dans cette revanche de la société. Cette merveilleuse famille originaire des Comores. Moi, j'ai parlé avec sa famille jeudi soir. C'est formidable. Son papa, qui était homme à tout faire sur un pétrolier à Marseille, ça ne s'invente pas. Sa maman, qui a fait les ménages dans toutes les écoles de Marseille. Et je trouve qu'aujourd'hui, quand ils regardent leur fils comme ça, c'est magique. Ouais. C'est magique. Et ça fait... Et alors, il nous parle à chaque fois d'Aznavour, évidemment, Soprano, parce qu'il l'a dans son cœur. Ça se sent vraiment, en tout cas.
Alors, on est obligé de l'entendre.
Ah oui, on peut écouter un bout de La Bohème, ça va lui faire plaisir.
La Bohème, ça voulait dire, on est heureux.
Aznavour a créé cette chanson, bien sûr, on est en 1965, il avait déjà des tubes immenses en 65, je me voyais déjà sur Ma Vie, Famille Formidable, La Mama et tant d'autres. Et puis on lui avait demandé, c'était une commande pour une comédie musicale qui s'appelait Monsieur Carnaval, qui allait jouer au Châtelet. C'est pas Aznavour qui chantera en premier cette chanson d'Aznavour, en fait ce sera tout simplement Georges Guettari. Et puis quand Aznavour assistait quelquefois au triomphe de Georges Guettari en train de faire finalement ce succès incroyable à Bohème, il reprendra sa chanson, il l'enregistrera. Voilà.
C'est incroyable comme Aznavour aussi marque les jeunes générations. Je pense à Amel Bent parce qu'ils sont assez complices avec Soprano, qui a été aussi un guide musical et spirituel.
Pour finir, parce que ça vient de tomber il y a à peu près 2 heures, la maison de Charles Aznavour à Mouriès est à vendre. Ah, elle vient d'être mise en vente il y a 2 heures, je vous le signale tout de suite. C'est 660 mètres carrés, c'est entouré de 3 hectares pour la maudite somme de 2 400 000 euros.
2 millions, c'est pas si cher.
Oui, ça reste tout à fait correct.
660 mètres carrés
oui. Ouais,
bon, bah voilà, merci monsieur Petit-Zeno. Il est fait tout, Fabien Lecoeur.
Peut-être que Soprano nous rachètera cette propriété.
Bah, passez-lui l'info en direct.
Je vais
lui
faire un SMS tout de suite.
Merci beaucoup. On fait une petite pause.
Et dans un instant, ce sera le journal de 19h.
Avec quelques rendez-vous. Paris qui agrège les manifestations et les colères. 19h40, l'œil de Frédéric Dabi pour analyser cette grogne sociale. Et 19h15, l'un des plus grands spécialistes d'Alzheimer avec nous au cœur de cette journée mondiale dédiée à la recherche.
Europe 1, le grand journal du soir.
Nous Wendy sommes Bouchard. Ensemble, chers amis, jusqu'à 20h. Voici d'abord les grands titres et le journal de 19h présenté par Lénaïque Monnier. Bonsoir Lénaïque.
Bonsoir Wendy, bonsoir à tous.
19h.
Avant, on manifestait tranquillement.
Vous avez gagné quoi? Rien.
Tension en marge des cortèges, gilets jaunes, marche verte et black bloc, différents mouvements se sont croisés aujourd'hui à Paris.
Et au milieu de ces manifestations, les journées du patrimoine, parfois perturbées, il y a évidemment des mécontents.
Nous irons aussi à Strasbourg, où là, la manifestation pour le climat s'est déroulée dans le calme, toutes générations confondues.
Dans ce journal également, nous verrons comment faire travailler son cerveau pour retarder la maladie d'Alzheimer.
Le capital cerveau, comme votre capital retraite, il faut l'entretenir pour que plus tard, vous puissiez avoir une maladie d'Alzheimer, si jamais malheureusement vous devez en avoir une, qui démarre le plus tard possible.
Et puis un village du Vercors, bientôt coupé du monde en raison de travaux sur la seule route, les temps de trajet vont exploser.
On doit faire un détour de 55 km au lieu de 5 km. C'est pas possible, c'est insupportable.
Vous êtes au cœur du Grand Journal sur Europe 1, soyez les bienvenus.
Europe 1.
Avec cette journée d'action aujourd'hui, samedi 21 septembre à Paris, gilets jaunes, marche pour le climat ou réforme des retraites, on a vu beaucoup, beaucoup de monde défiler dans la capitale aujourd'hui.
D'abord pour les gilets jaunes, c'était le 45e samedi de mobilisation qui a tourné au micro-rassemblement puisque dès la fin de la matinée, la police avait dispersé les différents groupes. Du coup, c'est vers la marche pour le climat que certains ont convergé. Théo Manval, c'est là que la situation a dégénéré et pour les manifestants pour le climat, c'est un sentiment de frustration et de déception qui prédomine.
Effectivement, parce que très vite, au début de leur cortège, de petits groupes de personnes tout de noir vêtues, cagoulées, sont allés à l'affrontement, ont vandalisé plusieurs vitrines. Les forces de l'ordre ont répliqué avec des jets nourris de gaz lacrymogène. Le cortège s'est retrouvé nassé, impossible d'avancer sur l'itinéraire prévu, d'où la colère, vous le disiez, de ceux qui étaient venus marcher pour le climat.
Super énervé. À cause de ces enfoirés, quoi, voilà.
Moi, je veux juste te dire, il faut arrêter de rêver 30 secondes. Ça fait combien de temps que là, le problème climatique est là ? Il ne s'est absolument rien passé. Soit on se bouge le cul et on fait changer les choses avec des actions qui peuvent parfois être violentes, soit rien ne changera.
Non, avant on manifestait tranquillement.
Vous avez gagné quoi? Rien.
Voilà une violence qui fait débat dans les rangs, vous l'entendez. Greenpeace a en tout cas appelé dès 16h ses militants à quitter le cortège. Le cortège qui avait rejoint des gilets jaunes après leur tentative matinale d'aller sur les Champs-Élysées.
Dans les revendications des gilets jaunes, il y a une écologie accessible à tous, puisque en fait, qui peut se payer l'écologie? Ce sont toujours les plus riches de ce pays, ceux qui ont les moyens de manger bio, etc. C'est ce fameux slogan, oui, fin du monde, même combat.
En fin d'après-midi, la manifestation a fini par repartir, mais scindée en deux. Une branche vers Bercy, une autre vers le 13e arrondissement de Paris, où de nouveaux affrontements ont éclaté avec les CRS. Alors qu'il est, plusieurs dizaines de personnes sont encore regroupées place d'Italie et les déchets fumants des feux de poubelle et de barricades éteints par les pompiers jonchent toujours l'avenue des Gobelins dans le sud-est de Paris.
Merci Théo Manval pour Europe 1. 15 200 personnes ont été recensées pour cette marche d'après un décompte du cabinet Occurrence. Vu aussi à Paris aujourd'hui les chasubles rouges de Force ouvrière contre la réforme des retraites. Défilé qui s'est déroulé dans le calme.
Alors cela dit, les journées du patrimoine n'ont pas pu se dérouler, elles, tout à fait comme d'habitude, Lénaïque.
Eh bien non, parce que certains endroits sont restés fermés, comme dans le secteur des Champs-Élysées où se trouvent de nombreux monuments, l'Arc de Triomphe, le Grand Palais. Alors parfois, il a fallu trouver un plan B, Johanna Chabas.
J'avais prévu l'Arc de Triomphe, c'est fermé. Opéra, bah, y a les gilets jaunes. Et là, je fais l'Assemblée nationale, il fallait un pass.
Nicole n'est pas la seule déçue. Myriam aussi n'a pas pu rentrer à l'Assemblée. Elle ne savait pas qu'il fallait s'inscrire.
Je trouve que c'est casser l'ambiance des journées du patrimoine où on déambule et on découvre le patrimoine. Devoir s'inscrire, avoir des créneaux, se speeder. En plus, aujourd'hui, il n'y a aucun transport. C'est juste pas possible. C'est gâcher le plaisir. Après, c'est dommage.
Un gendarme sur place estime qu'un tiers des touristes ont dû faire demi-tour parce qu'ils n'étaient pas inscrits. Alors devant l'entrée, beaucoup ont les yeux rivés sur leur téléphone pour choisir leur prochaine destination.
On va essayer de voir s'il y a des sites accessibles sans inscription. On va y aller à l'instinct, on va dire, on verra sur place.
On va chercher un plan B ou alors aller profiter du beau temps, ça n'arrive pas souvent non plus.
D'autres n'ont même pas essayé. Sophie a renoncé à ses visites aujourd'hui. Elle préfère y aller demain.
Avec toute l'agitation qu'il y a, les forces de police, il y a quand même un petit peu un climat d'insécurité. Et je trouve que c'est plus agréable de sortir, aller faire des visites culturelles quand on se sent bien dehors. Et je pense que ce sera mieux demain.
Sur les 18 sites fermés aujourd'hui, 11 ont prévu de rouvrir leurs portes demain.
Le reportage de Johanna Chabas, et je précise que le site des Journées du patrimoine vous indiquera pour demain où il faut vous inscrire au besoin.
Voilà ce qu'on pouvait dire de la situation à Paris ce samedi. Direction Strasbourg maintenant, où il n'a été question pour deux coups que du climat.
Oui, plusieurs milliers de personnes, dont des familles avec enfants, ont participé dans une ambiance détendue à cette marche. Toutes les générations se sont senties concernées. Charlotte Bechler.
Et oui, une marche sous un soleil un peu trop éclatant pour un mois de septembre. Adultes et enfants débattent sur le réchauffement climatique, mais pas que. Laurent se bat pour sa planète depuis plus de 40 ans.
Il y a le réchauffement climatique, mais il y a aussi la pollution, les polluants, les hormones, le plastique et tout ça, qui nous reviendra dans la figure par les poissons qu'on mange. Mais où est-ce qu'on va ?
Un peu plus loin, Sophia, 10 ans, scande les slogans, pancarte à la main, elle a pris la tête du cortège.
J'ai écrit les enfants pour le climat parce que c'est surtout nous les jeunes, les enfants, les adolescents qui sont concernés pour leur avenir. On se bat tous pour ne pas avoir une planète polluée quand on sera grand parce qu'on voudrait vivre.
Boualem, lui, est venu en famille avec ses deux enfants.
Le flambeau, c'est à eux qu'on va le passer après. Il faut qu'ils comprennent les enjeux. La Terre, elle a des limites, quoi. Sinon, elle va nous réguler, hein, ça c'est sûr. C'est elle qui va s'occuper de nous. Hein.
Philippe milite depuis des années. Il espère que cette manifestation fera enfin bouger les choses.
Nos dirigeants disent qu'ils prennent conscience du problème et ils prennent pas les mesures qu'il faut. On a l'impression que les échéances sont toujours repoussées et puis que le climat continue à se détériorer. Les mesures qu'on peut prendre sont inefficaces. Quoi.
La place de la République, point d'arrivée de la manifestation, a été rebaptisée la place des possibles. Aujourd'hui, un endroit où l'on pense la planète autrement.
Charlotte Bechler, depuis Strasbourg pour Europe 1.
Une petite pause et on vous retrouve, Lénaïque Monnier. On s'intéresse dans un instant à la journée mondiale de la maladie d'Alzheimer. Comment évolue la recherche scientifique ? On en parlera également avec notre invité, le professeur Bruno Dubois, à 19h15. Marlène, tout de suite.
Il est 19h09, la suite du journal sur Europe 1, Lénaïque Monnier, Wendy Bouchard.
Et à la une, cette maladie qui fait peur, notamment parce qu'on la connaît mal, la maladie d'Alzheimer, dont c'est la journée mondiale, Lénaïque, qui touche le cerveau et qui détruit les neurones.
Et un chiffre important, Wendy, 900 000 personnes sont touchées en France, mais la moitié l'ignore. Benjamin Lévesque, il existe des petites choses du quotidien que l'on peut faire pour essayer de repousser la maladie.
L'idéal, c'est de commencer dès 40 ans, l'âge où le cerveau commence à ralentir. Malgré tout, débuter à 70 ans, il n'est pas trop tard. Le plus important, c'est de faire des choses nouvelles. Si vous êtes fort en maths, par exemple, eh bien, n'en faites pas. Le cerveau s'est habitué à en faire. Mettez-vous plutôt à la littérature ou aux jeux vidéo. L'objectif pour le professeur Philippe Amouyel du CHU de Lille, c'est de sortir de sa zone de confort, par exemple se contrarier quand on est droitier.
Vous faites ça tous les jours et pour faire les actions que vous faites de votre main droite, par exemple, ouvrir une porte, prendre un verre d'eau, verser une bouteille, et votre cerveau, lui, va être perturbé, mais va créer de nouvelles connexions. Ça aide justement à rendre votre cerveau plus résistant. C'est ce qu'on appelle, nous, la réserve cognitive en tant que scientifique. Moi, j'appelle ça le capital cerveau, comme votre capital retraite. Il faut l'entretenir pour que plus tard, vous puissiez avoir une maladie d'Alzheimer, si jamais malheureusement vous devez en avoir une, qui démarre le plus tard possible.
Et le deuxième pilier pour lutter contre cette pathologie, c'est l'hygiène de vie. On ne sait pas encore exactement pourquoi, mais on a observé que le surpoids, le diabète, l'hypertension ou encore le tabac favorisent la maladie d'Alzheimer.
Les précisions de Benjamin Lévesque pour Europe 1.
De la recherche fondamentale à la recherche clinique, un des plus grands spécialistes de la maladie, le professeur Dubois, est avec nous sur Europe 1 dans 5 petites minutes. On part pour terminer dans le Vercors, à la rencontre de tout un village qui est en colère. Les 56 habitants seront bientôt coupés du monde.
Il n'y a qu'une seule route qui mène à la petite commune d'Echevie et elle s'apprête à connaître de longs mois de travaux. Rendez-vous compte, au lieu de 5 minutes, les enfants mettront presque une heure pour aller à l'école. Reportage de Jean-Luc Boujon.
La route des Petits Goulets est une route de montagne magnifique et escarpée, parcourue de plusieurs tunnels creusés dans la roche au XIXe siècle. C'est ici que le conseil départemental de la Drôme va engager de gros travaux de sécurisation. Conséquence, la route sera complètement fermée durant 3 mois l'an prochain, ainsi que les 2 années suivantes, l'enfer pour les habitants des Chevilles, explique Gilles Michaud, l'un des 56 résidents.
On doit faire un détour de 55 km au lieu de 5 km. Par exemple, nos enfants qui vont à l'école primaire à 5 minutes devront faire presque 1 heure de trajet le matin, 1 heure de trajet le soir. De même pour les collégiens et de même pour les 25 habitants qui travaillent de l'autre côté des Petits Goulets. C'est pas possible, c'est insupportable.
Les habitants également hostile à ces travaux qui visent à augmenter la hauteur des tunnels afin de doper la fréquentation touristique. Anita Joliot est conseillère municipale.
Ce projet est dans le but de faire passer des cars à 2 étages, donc pour un tourisme de circulation. Nous, ce que nous voulons, c'est que les Petits Goulets restent un lieu magique. Nous voulons garder ça.
Une position qui jusque-là n'a pas été entendue pour les autorités. Un village de 56 habitants, ça ne compte pas, conclut Anita, très amère. Et je vis Jean-Luc Bougeon, Europe 1.
Voilà, vous avez compris, il faudra mettre le réveil. Ce n'est beaucoup plus tôt hein, pour le petit-déj.
Ah oui,
dans les mois
prochains.
Merci Lénaïque Monnier.
Europe 1, il est 19h12.
Et ben voilà, c'est l'heure de la météo. Valérie Darmon, dites-nous tout, on vous écoute.
Et oui, la configuration météo change progressivement sur la France pour l'arrivée de l'automne. L'anticyclone responsable du beau temps s'est décalé lentement du proche Atlantique vers l'Europe centrale, résultat un épisode de forte pluie venant se bloquer sur les reliefs du sud qui cernent le bassin méditerranéen. Les cumuls pluviométriques les plus importants sont attendus sur les Cévennes, notamment sur l'Hérault. Bonne nouvelle pour la sécheresse, mais comme les sols sont secs, les risques d'inondation sont très élevés. Alors ce dimanche, cette instabilité touche quasi tout le pays. Là où c'est le mieux et le plus variable, c'est entre la Lorraine et l'Alsace, sur les frontières, ainsi que sur la pointe bretonne, où vous profitez de quelques belles éclaircies. Les températures sont en baisse, forcément avec la pluie. Entre 18 à Brest en ce dimanche et 27 à Charleville, à Reims et à Lille avant l'arrivée de la pluie. 25 annoncés à Strasbourg et à Paris.
Merci Valérie Darmon. Vous écoutez Europe 1. Place au sport maintenant, Wendy Bouchard.
On retrouve Axel May avec le championnat de France de foot. Et Marseille souffrait tout à l'heure face à Montpellier. On en est où, Axel ?
Eh bien, mené à la mi-temps 1-0, les Marseillais ont fini de courir après le score puisqu'ils viennent d'égaliser. On va retrouver au Vélodrome Stéphane Frangy.
Enfin, ils égalisent, 78 minutes de jeu au Vélodrome. Et c'est Valère Germain qui a remis les deux équipes à égalité tout à l'heure sur un centre au second poteau de son coéquipier Radonjić, et il prend Giraud Roulier, le gardien montpelliérain, à contre-pied. Marseille qui continue de pousser. Il faut dire qu'il y a une belle opération à faire au classement. Un succès ce soir face à Montpellier. Marseille prendrait provisoirement du moins la tête de la Ligue 1, ce qui peut paraître incroyable vu le départ de saison qu'ils avaient fait. Mais Marseille est en forme. Marseille reste sur 3 victoires de rang. Il leur a manqué un petit peu d'inspiration, mais ils ont outrageusement dominé ce match et ils pourraient, et ils le sentent encore, enfoncer le clou face à une équipe montpelliéraine qui est carrément arc-boutée devant son but. Un partout, 79 minutes de jeu.
Stéphane Frangy au Vélodrome à suivre 5 matchs au programme de la soirée de Ligue 1, dont Bordeaux-Brest et Reims-Monaco.
Rendez-vous dès 20h dans Europe 1 Sport avec Lionel Rousseau. Chez les Dames, Lyon remporte la première édition du Trophée des Championnes.
Les Lyonnaises, championnes de France sortantes, ont battu à Guingamp leur dauphine parisienne au tir au but devant les yeux, ou plutôt sous les yeux, du président de la Fédération française, Noël Le Graët.
C'est bien d'abord que les deux équipes aient donné un bon spectacle. C'est bien qu'il y ait eu du monde. Et la joie des Lyonnaises montre que le challenge est intéressant.
Et le football féminin a beaucoup gagné avec la Coupe du Monde quand même, ça se ressent. Hein.
Oui, absolument. Il y a plus de licenciés partout. On aura des chiffres fin septembre. Je pense qu'on dépassera les 25% de plus que l'année dernière.
Noël Le Graët au micro d'Hervé Bride.
Alors, le rugby à la une, Axel, mais maintenant, retour sur le succès des Bleus à la Coupe du Monde de rugby.
Succès ce matin 23-21 face aux Argentins. Les Bleus n'ont pas raté leur entrée dans la Coupe du Monde, mais ils se sont fait peur. Hein. Ils menaient 20-3 à la mi-temps pour finalement s'imposer avec deux petits points d'avance. Écoutez ce qu'en dit l'un des vétérans de l'équipe, Louis Picamol.
Il va falloir construire sur cette deuxième mi-temps parce qu'elle a été très loin du niveau de la première. Et on a peut-être fait quasi tout ce qu'il ne faut pas faire dans une mi-temps face aux grosses nations. Donc c'est très bien parce qu'aujourd'hui, Elle ne nous enlève pas la victoire, mais elle nous met en garde. Et on a maintenant 10 jours pour bien récupérer. Je pense qu'on sera frais pour le prochain match.
Louis Picamol avec Simon Rubin. Notez que Wesley Fofana, qui avait été touché à une cuisse en match de préparation, est forfait pour toute la compétition. On l'a appris tout à l'heure. Il est remplacé par le néophyte, le Lyonnais Pierre-Louis Barassi, jamais encore appelé en senior.
Et en bref, l'équipe de France de volley joue ce soir son 8e de finale de championnat d'Europe.
Les coéquipiers d'Hervé Ngapet sont favoris face aux Finlandais. C'est à Nantes et le coup d'envoi, c'est dans un quart d'heure précisément.
Merci Axel May. Bah oui, je suis désolée, j'ai coupé un peu la chic. Pardon.
Votre grand journal du soir sur Europe 1 se poursuit dans un instant avec ces questions au cœur de la journée mondiale contre Alzheimer, Wendy.
Oui, comment retarder la maladie? Où en est la science face à une réalité préoccupante? 800 000 patients en France, 140 000 nouveaux cas chaque année, des chiffres qui pourraient doubler dans les 10 ans. A tout de suite sur Europe 1. Europe 1.
Il est 19h18, la suite de votre grand journal du soir sur Europe 1. Wendy Bouchard, nous sommes le samedi 21 septembre. C'est la journée mondiale contre la maladie d'Alzheimer.
Absolument, et ces journées spéciales sont toujours l'occasion de médiatiser les enjeux de la science et d'entrer dans une réalité qui est peut-être la vôtre. 800 000 patients en France. Je reçois l'un des plus grands spécialistes de cette maladie. Bonsoir, professeur Bruno Dubois.
Bonsoir.
Vous êtes professeur de neurologie, chef du service des maladies cognitives à l'hôpital de la Salpêtrière notamment, et vous publiez chez Grasset la vérité sur la maladie du siècle. La vérité, c'est que cette maladie d'Alzheimer est l'une des plus redoutées par les Français et celle sur lesquelles les traitements butent aujourd'hui. Comment on redonne espoir scientifiquement, cliniquement à tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui?
Je dirais qu'il vient de trois directions possibles. Premièrement, essayons les médicaments actuels dont on a montré qu'ils étaient actifs sur les lésions sur des stades plus précoces. Deuxième possibilité, il y a d'autres pistes qui sont en train d'être étudiées, notamment la piste de la protéine Tau. Et il y a une nouvelle vague de médicaments qui va arriver, qui sont actuellement en développement et qui pourraient agir plus spécifiquement dans cette direction-là. Et puis troisièmement, ça c'est tout un programme qu'il faudrait mettre en place, c'est travailler sur l'identification précoce de sujets à risque et à ce moment-là, utiliser ces médicaments dont on a montré qu'ils bloquaient les lésions de la maladie et voir si on empêche l'entrée dans la maladie. Ça, c'est tout un projet que je voudrais mettre en place à la Salpêtrière, de travailler sur ce que j'appelle la clinique de risque, c'est-à-dire évaluer le risque chez des sujets qui ont des raisons d'être inquiets.
Donc aujourd'hui, les professeurs, les spécialistes savent identifier les individus plus susceptibles d'être porteurs de cette maladie que les autres.
Oui, enfin, c'est la difficulté aujourd'hui. C'est que le fait d'avoir des lésions, pour moi, ne suffit pas à déterminer qu'on développera la maladie. Et tout le travail est de repérer ce que j'appelle les facteurs modulateurs, ceux qui vont moduler l'âge de survenue de la maladie, soit dans un sens, c'est-à-dire l'aggravation, soit dans un autre sens, c'est-à-dire la freination.
Avec Alzheimer, dont vous dites que c'est probablement à l'avenir l'une des premières préoccupations de santé de nos sociétés, avec presque 20% des plus de 80 ans touchés. Juste un mot sur ce chiffre en croissance, professeur Bruno Dubois. Est-ce que le mal est exponentiel ou simplement est-ce qu'on le diagnostique davantage et mieux?
Alors, pour ces deux raisons, mais c'est aussi simplement dû au fait que à partir du moment où l'espérance de vie augmente, le nombre de patients qui vont être touchés par cette maladie va augmenter de fait. C'est mathématique. On sait aussi que les lésions sont présentes naturellement chez les gens à partir d'un certain âge. Donc toute la question est de savoir si le fait d'avoir des lésions suffit à exprimer la maladie ou si on peut éventuellement identifier des facteurs qui vont freiner l'occurrence de l'affection. Voilà, donc il y a toute une recherche autour de cette relation entre lésion cérébrale et survenue de la maladie.
Aujourd'hui, on n'est pas en capacité de dire, professeur, pourquoi la maladie se déclare chez tel ou tel organisme.
Non, on ne sait pas exactement pourquoi elle se déclare. On pense qu'il y a une intrication complexe entre des facteurs de susceptibilité génétique et des facteurs environnementaux, mais ce que l'on sait, c'est ce qui se passe à ce moment-là. C'est qu'il y a une perte des neurones, une atrophie cérébrale qui est liée à l'accumulation de protéines mal formées, mal conformées, que l'on a identifiées maintenant. C'est une accumulation de protéines anormales. Voilà.
Et c'est probablement cette ignorance collective qui fait que nous avons beaucoup de clichés, beaucoup de raccourcis sur la maladie. Je prends cet exemple parce que vous le citez également, les petites pertes de mémoire lorsqu'on oublie un mot, lorsqu'on perd ses lunettes. Vous dites qu'il y a une différence très claire entre la plainte de mémoire, qui est un problème d'attention, et la perte de mémoire aujourd'hui. Mais on a tendance à accumuler et à associer les deux.
Mais oui, c'est toute la difficulté, si vous voulez. C'est que nous médecins, on a des moyens de faire la différence, puisqu'à ce moment-là, on va contourner l'étape attentionnelle et on va utiliser des tests qui nous permettent de vérifier qu'il y a ou non une perte de stockage d'informations. Mais le sujet lui-même n'a pas cette capacité, donc il s'inquiète. Et c'est la raison pour laquelle il faut conseiller à nos concitoyens qui sont inquiets parce qu'ils sont plutôt jeunes, parce que dans la famille, il y a des gens qui sont malades et qu'ils sont inquiets parce qu'ils ont des oublis banals. Ils cherchent en permanence leurs lunettes, ils cherchent leurs clés, etc. Il faut les rassurer. Ce n'est pas forcément le signe d'une maladie d'Alzheimer. Au contraire, c'est tout simplement des troubles attentionnels tout à fait simples et il ne faut pas s'en inquiéter.
On en sait beaucoup sur cette maladie, mais pas encore assez. Professeur Dubois, ça tient aussi au mystère du cerveau qu'on n'a pas suffisamment exploré.
Oui, enfin, ça tient, si vous voulez, au fait qu'on sait que cette maladie, comme d'autres maladies neurodégénératives, se caractérise par une altération du fonctionnement des neurones. Il reste maintenant à savoir pourquoi ces neurones dysfonctionnent, pourquoi certains neurones dysfonctionnent dans telle maladie et pas dans d'autres. Il y a donc une sélectivité de la perte neuronale qui reste mystérieuse.
En tout cas, ce que l'on sait, professeur, c'est que plus on sollicite le cerveau, plus on fait de choses, apprendre une langue étrangère, lire, parler, sortir de ses zones de confort, plus on fait le bien pour peut-être repousser cette maladie.
Vous avez raison. On a montré, si vous voulez, qu'il y avait une relation directe entre justement ce développement cognitif que l'on a au cours de notre scolarité, de nos années d'études, et le retard d'entrée dans l'affection. Donc ça, c'est vraiment un point très positif. Il faut être ouvert, il faut évidemment développer tout ce réseau neuronal que nous avons la chance d'avoir à notre naissance en ayant toutes ces activités multiples, vous l'avez dit, les lectures, l'apprentissage de langues, enfin toutes ces activités qui développent la circuiterie neuronale cérébrale a un impact sur l'âge de survenue de la maladie.
Nous avions avec nous ce soir le spécialiste internationalement reconnu de la maladie d'Alzheimer, professeur Bruno Dubois, vous qui publiez chez Grasset « Alzheimer, la vérité sur les maladies du siècle », le livre que je vous engage à partager pour mieux comprendre et mieux nous informer sur cette maladie au cœur de cette journée mondiale dédiée. Merci professeur Dubois.
Merci à vous.
On est bien sur Europe 1, il est 19h24, c'est l'heure de l'écho de la planète, Wendy Bouchard.
L'écho de la planète, c'est le journal de l'environnement chaque samedi avec Virginie Salmen. Bonsoir Virginie.
Bonsoir Wendy, bonsoir à tous. Sur la planète cette semaine, les étudiants choisissent leur patron en fonction de leur empreinte carbone. Donald Trump veut forcer la Californie à revoir à la baisse ses ambitions sur les normes des voitures. Et puis on parlera de la pollution de l'air dans les écoles avec des solutions.
Et tout d'abord, donc, ces étudiants des écoles les plus prestigieuses qui se détournent des grandes entreprises, alors vraiment par conviction écologique. Hein.
Oui, les courbes statistiques sont très surprenantes. Par exemple, à l'école d'ingénieurs des mines, il y a 10 ans, plus de 70% des diplômés partaient presque comme un seul homme chercher un emploi dans l'industrie ou les entreprises du CAC 40. Mmh. Désormais, est-ce que vous savez combien ils sont ? Ils ne sont plus que 37%. Alors, c'est vrai aussi pour les écoles de commerce.
Hein, ouais. Ouais,
c'est très impressionnant. Sciences Po, c'est vrai aussi pour Normal Sup, les filières universitaires. Quand ils postulent à un emploi, beaucoup de ces étudiants ne se voient pas travailler pour une entreprise qui aurait un impact négatif sur le climat. C'est le cas de Benoît Algan, il a 21 ans.
Je ne veux pas travailler contre mon propre intérêt à long terme et contre le propre intérêt de l'humanité. Je suis actuellement en troisième année à Polytechnique et ensuite, pour moi, le salaire ne sera pas le plus important. Ce qui est sûr, c'est que je travaillerai pour la transition écologique. Moi, je sais que quand j'irai voir une entreprise pour passer un entretien, je leur poserai des questions sur leur stratégie environnementale et ce sera à moi de juger ensuite si je la trouve assez ambitieuse ou pas.
J'espère qu'il sera bien reçu, mais il est en harmonie, ce garçon.
Oh, voilà, en tout cas, il va enquêter. Alors, Benoît, il fait partie d'un groupe qui a lancé, il y a pile un an, le manifeste étudiant pour un réveil écologique avec 30 000 signataires et depuis, ces étudiants, ils vont dans les séminaires d'entreprise, Engie, AXA, Enedis, pour rappeler au cadre l'urgence climatique d'abord et puis leur dire qu'ils auront du mal à les recruter sans donner de vrais gages, voire transformer carrément leur activité.
C'est du lobbying aussi, hein.
Voilà,
c'est bien.
C'est une forme de lobbying.
Aux États-Unis maintenant, à quelques jours seulement du grand sommet pour le climat à New York, Donald Trump essaie de tordre le bras aux dirigeants de la Californie.
Oui, le président américain a annoncé dans un tweet qu'il révoquait leur droit à appliquer leurs propres normes anti-pollution sur les voitures. Alors Donald Trump affirme que son but à lui, c'est de supprimer ces normes pour produire des véhicules moins chers. Le gouverneur de la Californie, Gavin Newsom, lui, n'y croit pas un instant chez nos confrères de France 24.
C'est juste une question d'industrie pétrolière. Point final, cela n'a rien à voir avec les constructeurs automobiles, ni les consommateurs, et encore moins la santé, ni notre économie.
Ça fait 50 ans pourtant que la Californie est à la pointe du combat climatique. Là-bas, les constructeurs, vous le savez, doivent vendre aux consommateurs des véhicules qui polluent moins qu'ailleurs aux États-Unis. Alors ce contentieux pourrait se régler devant la Cour suprême.
Alors on revient revient en France avec un gros sujet du moment, Virginie Salmen. Comment respirer un air moins pollué? On ne parle pas simplement de l'air extérieur, mais aussi de l'air dans les salles de classe.
Oui, la prise de conscience est en train de se faire en ce moment. Il y a des écoles qui ont installé, par exemple, des capteurs qui émettent un signal lumineux rouge quand le niveau de CO2 est trop élevé. À ce moment-là, on ouvre les fenêtres 5 à 10 minutes. Il existe aussi des expérimentations de caissons dépollueurs. Là, on va plus loin. Ça ressemble à un caisson de climatisation posé sur une fenêtre, mais il va chercher l'air extérieur, il capture les particules et puis réinjecte de l'air propre dans la classe. Le plus efficace au départ, ça reste évidemment d'éviter d'émettre des polluants, notamment par exemple en changeant de produit pour faire le ménage ou bien en évitant de laisser de la peinture à l'air libre tout simplement dans la classe ou bien d'utiliser des marqueurs.
On revient aux craies traditionnelles.
Hein, voilà, les craies, ça ne pollue pas du tout.
On termine avec le conseil de votre copine Catherine.
Oui, chaque semaine, elle nous propose un geste écolo qu'elle fait et qu'on peut faire à notre tour. Alors cette semaine, Catherine nous explique comment elle économise l'eau pour arroser son petit potager. Mmh. Alors, elle récupère tout simplement l'eau de la douche. Vous savez, quand vous allumez l'eau et qu'elle n'est pas encore tout à fait chaude, eh bien, au lieu de la faire couler, tout simplement, elle la récupère dans un récipient qu'elle pose au sol. Elle récupère aussi l'eau de cuisson du riz, des pâtes. Il n'y a pas de petites économies. Hein. Oui. Et puis, bien sûr, l'eau de pluie sur son balcon. Des économies d'eau donc, et d'argent, c'était le conseil de Catherine Marnier.
Qui sait, comme nos auditeurs, que 88 départements sont toujours en alerte sécheresse en France. Merci pour cet écho de la planète, Virginie Salmen, et à samedi prochain.
À samedi.
Votre grand journal du soir se poursuit jusqu'à 20h sur Europe 1. Quelques rendez-vous à venir, Wendy?
Absolument, Marlène. Dans l'ombre des grands chefs, on va cuisiner du cochon grillé entre saveurs terriennes et marines. 19h40, ce sera l'œil de Frédéric Dabi. Les Français supportent-ils encore le mouvement des Gilets jaunes? Et puis, notre hommage à l'acteur Charles Gérard. A tout de suite sur Europe 1.
Bienvenue, si vous venez nous rejoindre sur Europe 1, il est 19h30 et vous écoutez Wendy Bouchard jusqu'à 20h.
C'est l'heure du rappel de l'actualité avec Lénaïque Monnier. Lénaïque.
Bonsoir. 15 200 personnes ont participé à la marche du climat à Paris. Des comptes exécutés par le cabinet Indépendance Occurrence. Une marche perturbée par un millier de Black Blocs et de Gilets jaunes qui avaient rejoint le cortège. Dégradation et heurts avec les forces de l'ordre. À cette heure, on compte 163 interpellations et 99 gardes à vue. Les chasubles rouges de Force Ouvrière de leur côté ont défilé vers d'Enfer Rochereau contre la réforme des retraites et à l'appel de ce seul syndicat. Plusieurs milliers de personnes ont manifesté, mais dans le calme, de 6 000 à 15 000 selon la police ou bien les organisateurs. La mort d'un adolescent de 15 ans à Marseille ce soir, poignardé par une personne toujours en fuite. Une rixe a éclaté dans le 10e arrondissement de la ville. Le procureur de la République de Marseille a fait savoir qu'on s'orientait vers une bagarre entre jeunes gens pour un mobile à ce stade inconnu. Le sport, 6e journée de Ligue 1, Marseille-Montpellier, un partout, c'est quasiment terminé. Dans une demi-heure, c'est le multiplex sur Europe 1 avec les affiches que voici: Nîmes-Toulouse, Nice-Dijon, Reims-Monaco, Metz-Amiens et Bordeaux-Brest. À suivre demain, Lyon-PSG, il n'y aura ni Mbappé, ni Cavani, ni Icardi. Lyon-PSG, c'était aussi l'affiche du premier trophée des championnes. C'est les filles remportées par les Lyonnaises contre les Parisiennes. Victoire au tir au but. Et puis un mot sur le 15 de France qui a réussi son entrée en matière à la Coupe du Monde de rugby. Victoire 23-21, c'était contre les Argentins.
Merci. Et Marseille, c'est fini. Ça y est, tenu en échec face à Montpellier. Un but partout. Merci Lénaïque Monnier.
L'heure du dîner approche. Wendy Bouchard, on irait bien faire un tour en cuisine.
Dans l'ombre des grands chefs. Chaque semaine, on retrouve côté cuisine, en effet, pour le plat du jour, Pierre Herbulot, le plat du soir finalement. Je vous sens enthousiaste et bien entouré. Bonsoir Pierre.
Bonsoir Wendy, je vous emmène dans les cuisines d'un tout nouveau restaurant parisien ce soir. Il s'appelle Contraste, à sa tête pas un mais deux chefs formés dans les plus grandes maisons. Le premier, Kevin Deport, perpignanais, le second, Erwan Ledru, un breton. Bonsoir messieurs, le nom de votre plat?
Donc c'est cochon bellota, huître, herbe marine de la ferme du Croisic.
Erwan Ledru.
Alors rapidement, on joue sur nos deux terroirs tous les deux. Comme vous avez dit, Kevin vient du sud. Moi je viens de la Bretagne, donc c'est vraiment deux concepts assez différents. Moi ça va être la mer, Kevin ça va être vraiment le sud, la montagne et les produits un peu catalans espagnols.
Alors ça va être un jambon bellota.
Kevin Deport.
Ibérique du coup, donc on va utiliser l'épaule du cochon. Donc pour savoir, c'est le seul cochon qu'on peut manger cru en tartare. Donc là, on va le faire bien saisir sur les côtés pour avoir un bon côté bien croustillant et bien cuit comme on l'aime en France. Les gens, en principe, pensent que c'est du bœuf.
Il est très marbré, très rouge.
Il est très rouge, très marbré, très veiné. Donc du coup, c'est ça qui est intéressant dans cette viande-là, c'est que ça fait découvrir aussi quelque chose de nouveau.
Là, il est suffisamment marqué.
Ouais. Comme Kevin a dit, on va le mettre à reposer. Ce qui est très important pour une viande, même quand on le fait à la maison, c'est de faire reposer la viande. C'est-à-dire autant de temps de cuisson que de temps de repos.
Donc du coup, pendant ce temps-là, on va préparer les herbes. Donc vous allez avoir de la roche maritime, de la pimprenelle, du pourpier des jardins, du pourpier des mers, de la roquette sauvage, de la blette maritime, de la criste marine
et de la cénopode blanche.
Waouh, ça fait beaucoup.
Toutes les plantes qu'on a là, c'est des plantes sauvages. En fait, ça leur donne plus de caractère.
On est reparti en Bretagne, ça voilà, y est. Là, on traverse la France.
C'est ça. Le but de ce plat, c'est vraiment de mélanger le côté assez gras de cette viande avec un côté très végétal et fraîcheur en fait qui va apporter à ce plat.
Le cochon est sorti du four, voilà. Il est prêt?
Ça y est, le cochon est sorti du four. On va faire des tranches assez fines dans la longueur de la viande.
Là du coup, on va mettre la viande bien droite dans l'assiette. Et là du coup, on va mettre toutes nos herbes et on va finir par quelques morceaux d'huître qui va nous ramener l'iode et qui va nous faire aussi une symbiose avec la garniture. On va mettre une pomme purée bien onctueuse, bien beurrée avec quelques morceaux d'huître dessus. Et du coup, un jus de cochon.
Donc on a les deux éléments, la terre, la mer, le contraste, la Bretagne, le sud de la France,
exactement.
Même à la frontière avec l'Espagne.
Et voilà.
Ça, je vous avoue, c'est le meilleur moment de la chronique. Là. C'est hyper tendre. J'ai jamais mangé un morceau de cochon aussi tendre, je pense.
Ah, ça ressemble à du bœuf, comme disait Kevin.
Il y a l'iode de l'huître, la fraîcheur aussi, toutes ces petites herbes aromatiques, c'est vraiment super frais. Et là, j'ai repris un autre morceau de cochon, j'avais des herbes différentes dessus.
Ça change tout. Quand vous prenez la cristomarine, ou vous prenez la salicorne, ou la fleur de fenouil marine, ça c'est vraiment différent en fait. Et c'est ça qui est vraiment intéressant dans ce plat-là.
Félicitations chef, au pluriel, exceptionnellement ce soir. Wendy, je reviens vers vous. Il faut absolument que vous alliez trouver chez votre boucher une épaule de cochon bellota, qu'on appelle aussi pata negra, une cuisson rosée, quelques herbes marines, une belle purée. C'est peut-être ça, finalement, le bonheur.
Ouais, on valide. Bon, même si entre Frédéric Dabi, Fabien Lecoeuvre, moi-même, ici présente, Marlène, on mange de moins en moins de viande, les amis, quand même. La chronique était appétissante.
Et c'est l'heure à présent d'une semaine en Europe 1. Wendy Bouchard, les moments forts de l'antenne ces 5 derniers jours.
En bref, ça commence lundi dans Périscope, 7h50, la culture à la une avec Thierry Géfrotin, qui s'est glissé dans les coulisses du Théâtre de Paris pour l'adaptation de la série Palace de Jean-Michel Ribes.
Vous avez le maître d'hôtel qui annonce le menu du jour.
En entrée, les œufs réconciliés. Ce sont des œufs brouillés auxquels notre chef parle très gentiment pendant 45 minutes pour leur expliquer que la vie est trop courte pour se disputer.
Ah oui, je dois dire que j'aime aussi beaucoup la selle d'agneau Tour de France et le nez de clown dans sa farce.
Mardi, cette réaction sur un outil dont dispose Emmanuel Macron pour surveiller le travail de ses ministres. Dossier par dossier, l'ancien ministre Renaud Dutreil réagit au micro de Mathieu Belliard.
C'est très bien de voir que l'État aujourd'hui adopte des méthodes qui conduisent à l'efficacité. Tous les citoyens devraient s'en réjouir. Mais mon expérience, c'est qu'il y a plusieurs sortes de ministres. Vous avez des ministres qui adorent porter les parapluies, qui n'aiment pas s'exposer, prendre des risques. Vous avez des ministres qui portent des discours et puis vous avez des ministres qui portent des réformes. Bon, c'est important qu'il y ait une pression pour que ça soit surtout les porteurs de réformes qui aujourd'hui incarnent cette fonction ministérielle plus que les porteurs de parapluies ou les porteurs de discours.
Hier, 8h15, jour de la grève mondiale de la jeunesse pour le climat, Elisabeth Borne, la ministre de l'écologie, annonce une augmentation de son budget de 800 millions d'euros.
Le budget est en augmentation, ça va nous permettre de mieux accompagner les Français, ça va nous permettre d'investir comme on ne l'a jamais fait dans des transports plus propres. Je vous cite un exemple, moi, qui me tient à cœur. On parle souvent des fermetures de petites lignes. Ben justement, vous savez, l'an prochain, on va démarrer, on va faire les travaux pour la réouverture de la ligne Épinal-Saint-Dié. On a
Madame
présenté...
la ministre, combien d'ouvertures pour je ne sais pas combien de fermetures?
On investit
ça,
comme jamais. 3 milliards d'euros, plus 20% par rapport à cette année pour des transports de tous les jours, les transports du quotidien et des transports plus propres. Et puis aussi, on agit pour la biodiversité. Vous savez qu'à partir de l'an prochain, on aura une nouvelle agence publique pour mieux protéger notre biodiversité.
Et puis mercredi, c'était le François Hollande version Nicolas Canteloup qui réagissait à l'interview de Valérie Trierweiler, venue sur notre antenne présenter son dernier livre, On se donne des nouvelles.
C'était un véritable bonheur de se faire humilier sur votre antenne dès 8h15. Oui, de quoi je veux te parler, monsieur Villard, madame Mabrouk, je t'en foutrais, moi, je suis amoureuse d'un rugbyman. Hein, je t'en foutrais des... Je ne crois pas que Hollande puisse y arriver. Je t'en foutrais des... Hollande n'a pas été clairvoyant. Hein, merci, vraiment, vraiment merci, Sonia Mabrouk, pour la question fausse joie. Hein, quand vous lui dites, alors vous nous parlez d'un président que vous avez aimé, un président extraordinaire. Moi, mettez-vous à ma place, j'étais content, j'ai jubilé. Et bim, c'était pas moi, c'était Julien Loprêtre, le président du Secours Populaire. Ah, ça vous fait rire. Merci Europe 1. Bande de cons.
Oh, dis donc. Bientôt, monsieur.
Rien à perdre, de toute façon, on l'a dit.
C'était une semaine en Europe 1. À suivre, Wendy, l'œil de Frédéric Dabi.
Oui, 37% des Français soutiennent encore le mouvement des Gilets jaunes. Il nous dira comment il analyse cette perception de l'opinion et rendra hommage également sur cette antenne à l'acteur Charles Gérard. A tout de suite avec vous, Frédéric, en studio.
Votre grand journal du soir, la suite sur Europe 1. Il est maintenant 19h41, Wendy Bouchard. Voici l'œil de Frédéric Dabi.
Rendez-vous hebdomadaire chaque samedi 19h40 sur Europe 1. Bonsoir Frédéric Dabi.
Bonsoir Wendy.
Directeur général adjoint de l'IFOP, vous qui nous éclairez sur l'évolution de l'opinion. Les Français face ou à côté des Gilets jaunes, c'est un peu l'image du jour avec ces trois différents cortèges. Que retenez-vous de cette journée et de la manière dont on s'empare aujourd'hui de cette actualité Gilets jaunes, Frédéric?
Oui, les Gilets jaunes, ce mouvement que j'ai qualifié très vite d'OSNI, un objet social non identifié, continue de passionner les Français. Alors d'un côté, la fièvre semble être retombée. Aujourd'hui, il y a eu beaucoup moins de gilets jaunes que de personnes qui marchaient pour le climat. D'une part, il y a eu deux débouchés au mouvement des gilets jaunes. Le grand débat est surtout les élections européennes. Il y a une décrispation de la relation des Français avec Emmanuel Macron. On reconnaît que les choses vont un peu mieux au niveau du pouvoir d'achat.
Ils ne sont plus dans la détestation,
voilà,
dans le rejet
présidentiel. On n'est plus dans quelque chose d'épidermique dont avaient profité les gilets jaunes. Mais si la colère est retombée, Wendy, sur ce mouvement des gilets jaunes, je trouve que les raisons de la colère sont toujours là. D'une part, les gilets jaunes bénéficient d'un soutien toujours fort. Une enquête IFOP fiduciale du mois de juin montrait 50% de soutien et de sympathie. C'est peu par rapport à d'autres mouvements comme les infirmières, mais pour un mouvement qui a duré maintenant, on va arriver à la première année, c'est absolument gigantesque. Par ailleurs, on a toujours dit les gilets jaunes sont délégitimés parce qu'il y a eu de la violence qu'ils ont provoquée ou en marge des cortèges. Et ce qui est très intéressant dans les enquêtes que l'IFOP a menées pendant tout ce mouvement, c'est que les Français ont opéré une dissociation entre la violence et les revendications jugées légitimes des gilets jaunes, quand bien même des gilets jaunes étaient responsables de la violence. Le soutien et la sympathie ont été les plus forts au mois de décembre, au moment du drame de l'Arc de Triomphe, et au mois de mars, au moment du Fouquet's et de différentes dégradations sur les Champs-Élysées.
Oui, c'est intéressant parce qu'il y a aussi un écart assez important entre la faiblesse des mobilisés, aujourd'hui c'était manifeste, et le soutien des Français. Je donnais ce chiffre, 37% des Français qui souhaiteraient, en dépit de la violence, que ce mouvement continue justement. C'est intéressant.
Oui, ça illustre complètement le fait que le soutien peut baisser, mais je pense que les raisons, les leviers qui ont poussé au mois de novembre dernier des Français autour de ronds-points, qui ont déclenché ce mouvement, sont toujours là. La crainte du déclassement. Et c'est toujours là, et c'est partagé par les Français. La crainte du déclassement. Il y a une enquête que l'IFOP, une question que l'IFOP pose depuis une vingtaine d'années, c'est: pensez-vous que vos enfants vivront mieux demain dans la société française? Et la réponse est non à deux tiers. Le pessimisme français n'est pas un pessimisme pour soi. C'est un pessimisme de projection. Ce qui a aussi poussé des gilets jaunes dans la rue, dans les ronds-points, c'était l'injustice. Des premiers de cordée qui semblaient bénéficier de la politique du gouvernement et les autres qui n'en bénéficiaient pas. Et puis, cette question très forte liée au pouvoir d'achat, même si beaucoup de Français nous disent que ça va mieux, ça reste et ça va rester sans doute avec peut-être la question écologique, désormais, le juge de paix du quinquennat d'Emmanuel Macron.
Oui, assez structurant dans cette société. Vous avez exprimé, Frédéric Dabi, les raisons de la colère. Vous les avez rappelées en tout cas. Il y a eu cette remise à jour aussi quand même de la manière de diriger de la part d'Emmanuel Macron. On disait que la relation se décrispe en ce moment avec les Français. Lui aussi, dans une interview au Time, là, dit il faut comprendre les gens. Il est dans ce dialogue, fermeté, mais compréhension.
Oui, la méthode a clairement changé. Il y a aussi les grandes consultations, par exemple pour la réforme des retraites. Les Français restent quand même sur la question des résultats, moins sur la méthode, même si cette méthode nouvelle a permis de faire baisser ce qui était majeur, une sorte de cocktail de mépris, d'arrogance, de déconnexion au problème des Français qui était fortement associé au président Macron. Il y a encore ce type de critiques, mais elles sont très fortement atténuées. Mais attention, prendre son temps, écouter, ça peut laisser assez rapidement prise à un soupçon en termes d'inaction, à un soupçon en termes de tromperie. On prend du temps pour ne pas annoncer les mauvaises nouvelles pour les Français, notamment sur la réforme des retraites. Mais ce qui est assez intéressant et encourageant pour Emmanuel Macron, c'est que cette critique prend peu. Ce qui reste, c'est l'idée d'un président qui transforme le pays, qui réforme. la question majeure, et c'était ça que les Gilets jaunes ont voulu nous dire, c'est qui va vraiment bénéficier de ces réformes.
Ah oui, c'est ça, et qui donne l'occasion aussi aux parlementaires de s'exprimer, notamment on parlait tout à l'heure de ce débat sur l'immigration. Un tout petit mot sur son éventuelle lucidité, parce qu'il disait, si je suis battu en 2022, c'est peut-être par Marine Le Pen. Il y a quand même, évidemment, dans sa réflexion, cette crainte de la montée du Rassemblement National, et c'est très emprunt aussi dans le conflit des Gilets jaunes.
Oui, c'est vrai qu'il y a quand on a regardé le vote aux élections européennes, sur 100 Gilets jaunes, ou 100 Français se considérant ou soutenant les Gilets jaunes, ils ont voté massivement pour Marine Le Pen. Il y a aussi d'autres Gilets jaunes qui expriment un mécontentement sur une sorte de confiscation du débat électoral, comme s'il se résumait entre La République En Marche d'un côté, le Rassemblement National de l'autre, en oubliant les autres partis. Et peut-être si le président a réinjecté, il l'avait fait au moment du grand débat, cette thématique de l'immigration, c'est plus que jamais pour couper la droite en deux et faire que le débat politique tourne seulement autour de ces deux forces.
Alors voilà pour votre analyse politique en votre nom et en celui de l'IFOP, Opinion. Mais dans votre œil aussi, Frédéric Dabi, ce soir, avec Marlène et avec Fabien Lecoeuvre, nous sentons de la tristesse après la disparition de l'acteur Charles Gérard, incroyable gueule du cinéma, ami de Belmondo, ami de 70 ans. C'est pas beau, ça?
Voilà, je pense que les Français sont sans doute émus. Charles Gérard, donc, 96 ans, d'origine arménienne, s'inscrit d'abord dans la tradition des grands second rôles français, qui sont une spécificité française. C'est quelqu'un qui, sur une scène ou deux, éclaire un film sans qu'on s'aperçoive, sans qu'on se dise « Ah mais il s'appelle comment déjà celui-là ?»
Et
il rentre dans la
même
tradition de Hubert Deschamps, Michel Beaune, qui était d'ailleurs un ami de Jean-Paul Belmondo, Jean Bouise, Jacques François, alors je ne remonte pas à Saint-Son Infâme. C'est cette tradition des second rôles auxquels les Français sont très attachés. Mais vous le disiez, je pense que les Français associent surtout Charles Gérard à la fidélité, oui, en amitié.
Le copain idéal.
Le copain idéal, le copain de 60 ans, de 55 ans.
Il s'était rencontré en 1948, en fait.
Oui.
À l'époque, Charles Gérard était boxeur, il n'était pas acteur.
Vous savez que c'est quand même Belmondo qui lui a cassé le nez.
Belmondo qui lui a cassé le nez. Et peut-être pour se faire pardonner, il lui avait dit « Tu devrais faire du cinéma maintenant
».
Et c'est comme ça que Charles Gérard a embrassé une carrière incroyable.
C'est vrai
qu'il en met des Parisiens. On a souvent vu, en se promenant dans tel ou tel quartier, Charles Gérard, Jean-Paul Belmondo, dans les allées du stade Roland Garros, il venait aussi chaque année. Voilà, je pense que c'est une sorte d'alliage qui a beaucoup séduit les Français. L'acteur, la gueule des films de Claude Lelouch, il a aussi joué pour Francis Weber, pour Claude Pinotto et Claude Zidi.
Lautner,
il a vraiment joué avec ces scénaristes français des années 70 et 80. Et puis, ce fidèle en amitié. Il faut penser aussi à Jean-Paul Belmondo, qui en si peu de temps a vu partir Claude Rich, Jean-Pierre Marielle, Jean Rochefort, c'était la bande à Bébel.
Et bien pour lui rendre hommage, on va l'écouter parce qu'il fait aussi le copain et le bras droit de Lino Ventura, notamment dans L'Aventure, c'est l'aventure. In Franglish, please.
Dis-moi, Charlot, t'es sûr que tu parles anglais?
Ah oui, parfaitement.
Et tu l'as appris où l'anglais?
Au lycée.
Ah, parce que t'as été au lycée, toi?
Jusqu'en 8e.
Continue.
In a few minutes, I am sure we will see us, he will even want badly to see.
Arrête, ça va.
C'est bien ?
Très bien. Bilingue.
Ah, c'est
l'anglais
beau,
que j'aime, que je comprends. Donc c'est moi. Voilà.
Frédéric Dabi, bah merci pour cet hommage. Voilà, vous sortez aussi de vos terrains un peu plus spécialisés de politique. Ça nous fait du bien sur cette antenne. Merci Fabien Lecoeuvre.
C'est toujours un bonheur.
In a few minutes, we talk you the story of a big singer. Frédéric François se souvient d'une grande catastrophe minière, ça c'est moins drôle, en Belgique, avec Philippe Legrand, chère Marlène.
Oui, c'est dans un instant donc.
Wendy Bouchard, il est 19h51. Les Tours du Monde en jet privé TMR nous présente l'entretien de Philippe Legrand.
Une date, une histoire avec Paris Match. Ce soir, c'est le chanteur Frédéric François qui se souvient d'un traumatisme dans le Nord avec vous. Bonsoir Philippe Legrand.
Bonsoir Wendy, bonsoir à tous. Bonsoir Frédéric François.
Bonsoir.
Vous avez choisi de nous raconter ce soir une date difficile, date noire, le 8 août 1956, la catastrophe du bois de Cazier en Belgique, une catastrophe qui laisse dans la mine plus de 260 mineurs et qui va permettre au monde entier de comprendre la difficulté de vie et de travail des mineurs dans le monde entier.
Voilà. Moi, toute ma vie, bien sûr, enfin toute ma vie, toute ma jeunesse en tout cas, j'ai habité dans un premier temps dans l'enceinte du Charbonnage qui était le camp de prisonniers. Et puis après, on a eu une belle maison. Enfin, pour nous, c'était une belle maison, une toute petite maison avec une chambre à coucher. Et on était en face du Charbonnage. Donc, en
votre
fait,
père était mineur.
Mon père était mineur.
Et attentif à cette affaire, évidemment.
Mais bien sûr, ça avait choqué tout le monde. Même nous, on était très mal à tel point... On habitait bien sûr en face du Charbonnage, il y avait l'hôpital. Chaque fois qu'une ambulance passait, ma mère me disait « Francesco, va vite voir et demander si c'est pas papa qui a eu un accident ». Donc je partais de la maison, j'allais à l'hôpital et j'allais demander « Mais voilà, qui est entré aujourd'hui à l'hôpital ?» Et voilà, et quand c'était pas papa, ben je revenais, je disais à ma mère « Maman, c'est pas papa qui est là ». Et voilà. Mais chaque fois qu'une ambulance passait, on était traumatisés par le fait que ça pouvait être quelqu'un de la famille, en tout cas notre père.
Frédéric François, le 8 août 1956, dans cette catastrophe minière et autour, la presse internationale est là, se mobilise et reste pendant des semaines.
Mais bien sûr, pourquoi ? Je pense que ça a duré 15 jours pour savoir un peu ce qui se passait. Imaginez les femmes, les mamans, tout le monde, derrière ces grilles...
De la mine.
Oui, de la mine, qui attendaient. Est-ce qu'ils vont ressortir ? Qu'est-ce qui va se passer ? Ils ont attendu pendant 15 jours.
Et le roi Baudouin s'est déplacé. Oui, des funérailles nationales ont été décidées.
Après 15 jours, il y a eu un mot terrible. Tous les cadavres. Parce qu'il y avait beaucoup d'Italiens. Voilà, ils ont ressorti que des cadavres. Voilà. Et en fait, c'est un concours de circonstances. C'est une bêtise humaine, une chose qui ne devait pas arriver. Voilà.
On dit que c'était un wagonnet qui avait été mal glissé dans une cage d'un
exactement.
Ascenseur.
Exactement. Alors ce wagonnet, qu'est-ce qu'il fait ? Il touche une poutre. La poutre
bascule, s'effondre.
Elle bascule. Elle va...
provoquer un incendie.
D'abord, elle va couper des câbles. Et puis, elle va aller sur une canalisation d'huile. Et voilà, et l'incendie va commencer. Et là, c'est la panique totale. Et tout le monde, bien sûr, vous savez que dans une mine, ils sont tous comme des frères. Et donc, tout le monde essaye d'aider tout le monde de se sauver. Et bien sûr, ils n'y arrivent pas. Et le problème, c'était que l'aération qui venait du dessus a tissé ce feu. Et donc, très vite, il y a eu une incendie très forte. Et voilà, et malheureusement, 262 mineurs, imaginons, qui étaient venus en Belgique pour offrir à leurs enfants une vie meilleure, un avenir qu'ils n'avaient pas en Sicile. Mais je pense à des Italiens, je pense à des Polonais qui avaient beaucoup, je pense à des Espagnols. Et voilà,
et ça
s'est
terminé. Il y avait des échanges avec le nord de la France, hein, ce bassin minier aussi du Nord-Pas-de-Calais, qui venait aussi à la rencontre des mineurs.
Le jour de la catastrophe, bien sûr, le bassin du nord de la France sont venus les aider. Tout le monde, nous le savions, ça. Et donc, il y avait cette solidarité entre les mineurs qui était très, très forte. Et mon Dieu, et chaque fois qu'ils descendaient dans la mine, on se disait, mon Dieu, oh, pourvu qu'ils reviennent. C'était vraiment quelque chose de terrible, vraiment.
Frédéric François, ce 8 août 1956, à travers cette terrible catastrophe minière, ce 8 août 1956 met le doigt sur ces conditions de vie terrible. Et ensuite, des mesures sont prises. On avait oublié qu'il descendait à plus de 1000 mètres,
oui,
1175 mètres de profondeur.
Oui, oui. Moi, je n'avais que 6 ans à l'époque, hein, mais je savais qu'il descendait à plus de 1000 mètres et que ce n'était pas évident. J'ai visité maintenant dernièrement un Charbonnage qui est devenu un musée. Mon Dieu, si vous saviez, il y avait juste la galerie pour le corps de l'homme avec un marteau piqueur pour les galeries. C'était monstrueux.
Et pour donner de la joie, lorsque vous étiez enfant, en famille, vous chantiez avec votre
père
et
chantait.
Vous continuez aujourd'hui. C'est lui qui vous a donné envie de chanter. Ce nouvel album, Frédéric François, Juste un peu d'amour, arrive. 12 chansons inédites, Juste un peu d'amour, pour chanter la vie, le bonheur d'être ensemble avec vos textes, vos musiques. Alors, comment est né cet album, ce nouvel album ? On ne les compte plus, ils sont là.
Ce nouvel album, il est né d'une façon particulière parce que j'aime beaucoup... Moi, je suis musicien, donc j'aime bien l'évolution musicale. Voilà, j'essaie de ne pas me dénaturer, mais d'évoluer quand même. Et quand je suis allé trouver l'orchestrateur, je lui ai dit, voilà, nous allons employer, bien sûr, tout ce qui est pop. Nous allons y intégrer des guitares rock, mais d'une certaine façon, et des gimmicks un peu électro, pour épouser l'air du temps aujourd'hui. Et donc, voilà, j'ai mis tous ces ingrédients au service de la chanson romantique, et ça a donné un album album très particulier et intéressant, avec une évolution et de belles chansons.
Du rythme, on peut donner des titres, Ils s'aiment, hein, on évoquait l'amour.
Oui, bien sûr.
Se réveiller près de toi, souvent, tant d'années d'amour, les petites mains, mais aussi alors un regard sur l'enfance, des parents entre parenthèses. Une question aussi que vous posez là.
Je ne chante pas forcément des chansons de ma vie, mais je chante les chansons de la vie et des autres. Et donc, les gens se retrouvent dans les chansons. C'est ça qui est hyper important.
On va vous retrouver, Frédéric François, dans toute la France, car vous êtes en tournée, et aussi au Grand Rex, à Paris, le 12 octobre 2019.
Ah oui,
merci d'être venu sur Europe 1.
Très important. Merci à vous.
C'était l'entretien de Philippe Legrand avec TMR. Célébrer les 70 ans de Paris Match en participant au 45e Tour du Monde en jet privé. Info sur tmrfrance.com.
Merci de nous avoir suivis de 18h à 20h dans ce grand journal. Je serai ravie de vous retrouver à partir de 18h demain dimanche. Dans un instant, Lionel Rosso, Europe 1 Sport, Fabien Lecoeuvre, à demain, 18h50.
Absolument, on parlera d'un des monuments les plus célèbres parisiens.
Un vrai monument. Hein.
Un vrai monument, cette journée du patrimoine.
Oui, 130 ans, cherchez. On se retrouve demain.
À demain,
Marlène.
Wendy.
Merci à Kevin Ousti et Naïma Benchemann.